le bug de générique ou c'était que moi?
En fait, j'ai oublié de le remettre au tout début en le lançant, du coup je l'ai remis au début.
Nickel, t'as fait doublon de générique?
J'ai fait doublon de générique. Tiens, je te le remets encore.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce tu branles? Qu'est-ce tu fous? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois de juillet se déroule bien pour vous. Nous sommes le 9 juillet 2019, il est 14h30 et nous allons pouvoir suivre ensemble les questions d'actualité au gouvernement. Salut Tibrol, salut Théo le Zombie, salut Purple, salut l'Auvergnat Relou, wesh wesh les amis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour suivre comme moi et avec moi cette séance de questions d'actualité au gouvernement qu'on va pouvoir commenter ensemble. Pour rappel, 15 députés qui posent 15 questions à nos ministres qui y répondent ou qui dodge, on verra. Et voilà, j'espère que vous êtes prêts, prêtes et prêts. On est en petit comité là, on est 8.
Non, ça c'est l'average viewer.
Ah pardon, on est 16, on est
Faut
16.
regarder le current viewer.
On est
C'est 16.
current viewer.
Évidemment.
Ouais, PXCCV. Nous sommes 16, voilà, donc n'hésitez pas à partager ce stream. C'est bien joli de mettre mes gouttes. N'hésitez pas à partager ce stream histoire que nous soyons un peu plus de fous. Parce que, comme on le sait, plus on est de fous, plus on
On
rit. On est
rit.
au moins moins 8000. Il fait au moins moins 8000. Il n'y a que les meilleurs pour le moment. Oh, voyons. Salut Cowboy Étoile, d'après les syndicats. Que les subs. Est-ce que tout le monde est sub? Est-ce que j'ai mon icône de sub, moi, ou pas?
Non, Kobote est pas.
Ah oui,
Je vais
non.
pas parler aujourd'hui, je pense que. Je vais
Ouais, ça a
pas
l'air
parler.
compliqué pour
Ouais,
toi
ça a
comme
l'air
pour
compliqué
moi.
là en ce moment.
Hein.
Non, et Kobote Étoile n'est là depuis longtemps, mais il a toujours pas sub. C'est pas très sympa ça.
Ah oui, donc toi, tu shames carrément les viewers, quoi.
Bah ouais. Bon, tu vois, je suis pas seul non plus, mais
Bah, tu vois, salaud.
je l'ai pas
Alors,
non plus, grand politique.
content d'avoir converti Ecladus à la cause socialiste. Est-ce que je suis socialiste, moi? L'honnêteté m'oblige à vous le dire, je ne suis pas socialiste, comme dirait un certain. Personne, on donnera pas de nom. Salut Raxaco Rico Falapatorius.
Raxecorico Falapatorius.
Vas-y.
Raxecorico Palafatorius. Ça dit tout ça, mais
Pas
ouais.
mal,
Falapatorius, est-ce que tu sais ce que c'est ou pas?
bien tenté, pas du tout.
C'est une référence à Doctor Who. C'est des monstres dans Doctor Who. Des monstres très très connus.
Non, je connais que
Dalek, Cyberman.
les Galex et les canettes de Coca
Les
qui
Galek. C'est
c'est
les
pas
Daleks. Oui, c'est les Galets
Galex.
de Coca qui. Voilà.
Ok, bah c'est ça.
Voilà.
Je ne connais que
Avec un
ça.
rayon laser.
Salut, c'est qui Patricia Galerno? Patricia Galerno, ça n'est malheureusement plus personne. C'était une députée du MoDem qui est décédée il y a quelques jours. Je ne sais pas ce qu'elle avait, un cancer, j'imagine, un truc comme ça. Faut dormir. Mais j'ai dormi, Bonofly. C'est quoi? J'ai les yeux rouges, c'est ça? Je vois pas. Un staff qui peut répondre à décidément toutes les questions. Non, mais après, on suit. Enfin, je veux dire, si tu me demandes des questions sur la politique en Malaisie, je vais sécher, Raxaco Rick. Je vais t'appeler Raxa si ça te dérange pas. Je vais sécher. C'est juste que, bah, effectivement, l'actualité du Parlement français, on la suit. Hein. Du coup, on a une vague idée quand même. Mais voilà. Donc, non, Patricia Galerno, députée décédée malheureusement. Et effectivement, il est possible qu'on voit une série d'hommages aujourd'hui. À Madame Galerno, que sa mémoire soit, comment on dit, qu'elle repose en paix. Non, comment on sait quoi? Que sa mémoire, non, qu'elle repose en paix, mais que sa mémoire. Bref, enfin,
Je sais pas, que
vous
sa
voyez
mémoire soit
l'idée, quoi.
honorée, j'en sais rien.
Voilà. Le socialisme est-il lui-même socialiste? Tu as 4 heures, Ecladus. Bon, Ecladus qui est juste là, hein, faut le savoir. Tu es
Oui, faut le
socialiste maintenant,
savoir.
Ecladus? Non, tu es abonné à Libération, c'est pas la même chose. Sont-ils socialistes à Libération?
Les socialistes de droite.
Les avis divergent, et c'est énorme. Le staff sait tout, il peut nous donner la formule de Stirling. Et bah, bien entendu, Fanny Dufosse, tu es juste lasse, Ecladus. Fanny Dufosse, tu vois que j'évite. Hein. Non, le staff ne sait pas tout, le staff se renseigne. Mais effectivement, dans l'actualité de ces derniers jours, il y a donc le décès de Patricia Galerno. Il y a également les élections législatives en Grèce qui vont un changement de majorité. C'est pas chez nous qu'on aurait ce genre de choses, hein. Changement de majorité suite à des élections législatives. Vraiment, ça n'arrive que dans les démocraties parlementaires. La nôtre étant une démocratie présidentialiste, on le rappelle. Quoi d'autre? De quoi vous pensez que ça peut parler? Enfin, je parle de la Grèce, je sais pas pourquoi, parce que ça ne va pas en parler au QAG, clairement. Enfin, ce serait très surprenant. Mais de quoi ça peut parler pendant cette séquence de QAG? Peut-être de grève des profs et de rétention des copies. Peut-être de Laetitia. Est-ce que Laetitia Avia a une question? Tiens, ce serait drôle. Est-ce qu'elle a une question, Laetitia Avia? La République en marche, non. Bon, il reste une place pour la République en marche, et mais non, a priori, elle n'a pas de questions. Mais Laetitia Avia, dont la loi passe en première lecture après les QAG, grève des correcteurs, tout à fait. Réforme du droit de la presse, c'est possible, effectivement. Ce serait intéressant qu'il y ait une question sur la réforme du droit de la presse, la loi de 1881. Ce serait intéressant de pour en parler, ça, de parce que. On appelle ça la loi sur la liberté de la presse, la loi de 1881, mais en fait, ça a mis en place ce qu'on appelle le droit de la presse, auquel on est tous soumis, qu'on soit journaliste ou non. Et en l'occurrence, si vous faites de la diffamation, de l'insulte, etc., vous êtes soumis, il faut le savoir, au même. Enfin, d'ailleurs, si vous faites, ou si vous êtes victime d'eux, vous êtes soumis au même délai de. Trouvez-moi. Délai.
Je peux mieux non plus. Promité.
Non, alors,
Prométhéeus.
Sylvain invente des mots. Là, il m'a dit promité, ce qui n'a rien à voir. C'est un mélange entre probité et promiscuité, je ne sais pas. Non, les mêmes délais de prescription qui sont, si ça n'a pas changé depuis mes études, c'était de 3 mois, les délais de prescription en droit de la presse, avec tout plein de délices procéduraux du genre. Entre diffamation et insulte, il y a une différence, c'est que dans l'un des deux, la diffamation, on peut alléguer, enfin, il y a des faits qui sont allégués. Donc, si je dis que t'es un sale con, c'est une insulte. Si je dis que t'es un tocard, c'est une insulte. Si je dis que t'es un escroc, c'est de la diffamation, parce que l'escroc, il y a des faits qui sont allégués derrière. Et toi, pour m'attaquer en diffamation, tu as 3 mois à partir du moment où les propos ont été en diffamation ou injure. Tu as 3 mois pour m'attaquer à partir du moment où les propos ont été tenus, sachant que tu ne peux pas poursuivre sous les deux motifs, et que si tu m'attaques pour injure alors que c'est de la diffamation, ou tu m'attaques pour diffamation alors que c'est de l'injure, le temps que l'affaire arrive à son terme, les délais de prescription auront couru, ce qui du coup fait que, enfin, c'est magnifique, le droit de la presse. Mais en vrai, c'est nécessaire, parce que si je prouve que c'est un sale con, bonne chance pour prouver que c'est un sale con, Théo le Zombie. Ah, le point d'exclamation fait jaune ne fonctionne plus, en même temps, plus personne s'en sert, donc.
Ah, parce qu'il a été enlevé, simplement.
On va le remettre, on va le remettre. Et quid de l'humour pour la PPL à venir. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire? 1, 2, 3. Oui, que c'est cette loi de 1881, elle est essentielle parce que le boulot d'un journaliste, c'est de faire le mieux possible pour tirer les faits au clair, mais évidemment, on ne peut pas attendre des journalistes qu'ils y arrivent à chaque fois. Ils peuvent se tromper, ils ont normalement des processus pour éviter les erreurs. Dans le journalisme, il y a ce qu'on appelle, alors je ne sais pas si on appelle ça comme ça en français, mais en anglais, on appelle ça des red teams. Normalement, dans les rédactions qui sont bien constituées, les red teams, c'est des équipes. Merci Laurenta pour ce. Ah non, Cladus qui vient d'offrir un sub à Laurenta. Merci Cladus pour ce cadeau de sub. Laurenta, tu peux remercier ce cher Cladus. Tu vois ça dans quel cours, le droit de la presse? Oh là là, je ne saurais pas te dire. Dans quoi j'ai vu ça? Je sais plus. Je ne saurais pas te dire. Je me souviens plus. Pour la presse, c'est toujours 3 mois en effet. Merci Jojo. Et donc, attendez, qu'est-ce que je vous disais? Je vous disais, je vous disais, je vous disais. Insulte, diffamation, injure. Je sais plus ce que je vous disais. Je vous parlais de quoi? Question fin de Coupe du Monde féminine, peut-être, effectivement, Fanny Dufosse, peut-être. Félicitations aux Américaines, d'ailleurs. Red Team, oui, voilà, c'est ça, merci tout le zombie. Dans les rédactions qui sont. Dans les bonnes rédactions, celles qui fonctionnent normalement à peu près bien, il y a ce qu'on appelle des red teams. Enfin, aux États-Unis, en tout cas, ils appellent ça des red teams. Je ne sais pas si on appelle ça comme ça en France. Les red teams, pourquoi red? Parce qu'elles sont chargées de. Enfin, donc, c'est une équipe dont les membres n'ont pas du tout été mis au contact de l'affaire qui va leur être présentée. Et les journalistes qui ne sont pas dans la red team disent, bon, bah, alors voilà, on a enquêté pendant 6 mois sur tel sujet, on a eu ça, on a eu ça, on a eu ça, on a eu tel témoin, tel machin, tel témoignage, tels éléments, tel paplard, etc. Et la Red Team est chargée, n'a pas été en contact de l'affaire pendant tout toute l'enquête, et elle est chargée de tirer sur l'affaire pour trouver tous les angles morts, tous les trucs qu'on peut reprocher à l'équipe de journalistes. Donc Red Team, parce qu'elle est chargée de faire saigner l'affaire, en fait, d'une certaine manière. Est-ce que la régie peut reboot François? bon courage. Et voilà, et normalement, ce genre de choses évite des trucs comme ce qu'on avait vu dans certains médias. Je sais pas, je me souviens de les médias qui avaient dit, qui avaient embrayé sans vérifier les propos des gens à Tolbiac qui disaient qu'il y avait eu, je sais plus, des blessés qu'on nous cachait ou je sais pas quoi. Dans les médias qui fonctionnent bien, il y a des mécanismes pour éviter ça, mais ça veut pas dire qu'à chaque fois les journalistes arrivent enfin, il peut y avoir des faux témoignages, etc., etc. Et donc, on ne peut pas attendre des journalistes ce qu'on appelle en droit une obligation de résultat. On peut seulement attendre une obligation de moyens. Une obligation de résultat, c'est, je sais pas, si vous êtes plombier et que vous avez une obligation de résultat, la fuite est forcément réparée à la fin. Si vous avez une obligation de moyens, vous faites tout pour que, mais si vous n'y arrivez pas, eh ben, vous n'y arrivez pas et tant pis, quoi. Et les journalistes, ils ont ce qu'on appelle une obligation. Enfin, on ne peut attendre d'eux qu'une obligation de moyens parce que, sauf à leur donner les mêmes moyens que notamment les parlementaires, par exemple, qui peuvent rentrer dans beaucoup d'endroits où ils veulent, notamment tous les lieux de privation de liberté. Merci Père Castor pour ce 10e mois de soutien. Ça fait longtemps que je n'étais pas repassé par là. Bonjour à tous et bienvenue à toi, re-bienvenue à toi, cher Père Castor. Ravi de te revoir parmi nous. Donc ouais, comme les journalistes n'ont pas des moyens infinis, etc., on ne peut pas attendre d'eux qu'ils aient une obligation de résultat en permanence. Et du coup, c'est important qu'il y ait les exceptions qui sont prévues par, enfin, les règles prévues par la loi de 1881. Et voilà. Est-ce qu'on a le droit d'attaquer pour diffamation sur les propos, si les propos portent sur des faits réels, genre si on est réellement un escroc, on a risque si on attaque pour diffamation quelqu'un nous traitant d'escroc. La réponse c'est tu as le droit d'attaquer pour diffamation. J'ai commis une escroquerie, Raphaël me dit que je suis, enfin, dit dans la presse que je suis un escroc. Ah oui, il y a aussi le fait que le dire en privé et en public, on est sur des condamnations clairement différentes, puisqu'en privé, par exemple, les injures en privé, c'est genre une amende de 30 euros, un truc comme ça, si je me souviens bien. S'il n'y a pas de, si c'est pas, je sais pas, raciste ou ce genre de truc. Discriminant. Mais donc, pour te répondre, si je suis un escroc, que Raphaël dit que je suis un escroc et que, voilà, moi je peux l'attaquer pour diffamation, le seul truc c'est que lui il pourra faire juste ce qu'on appelle une exception de vérité, qui est de dire, ah bah regardez, il a été condamné pour escroquerie, donc c'est bien, donc je peux dire que c'est un escroc sans problème, puisque de fait c'est un escroc. Donc la réponse c'est oui, je peux attaquer pour diffamation, mais en face, je gagnerai pas parce que exception de vérité. Question existentielle, est-ce que pour satisfaire une obligation de résultat, il faut satisfaire l'obligation de résultat? Pas sûr de comprendre. Ah, ou alors non, tu t'es trompé, tu complètes ta question, c'est ça? Question existentielle, est-ce que pour satisfaire une obligation de résultat, il faut satisfaire l'obligation de moyens? De fait, si t'as un résultat, c'est que l'obligation de moyens, c'est bon. Enfin, il me semble. Je vois pas comment on peut faire autrement, mais je me trompe peut-être. Pour la loi de Madame Avia, c'est dommage car on a déjà tous les outils juridiques nécessaires, pas besoin d'une nouvelle loi, seulement de plus de moyens pour la justice, c'est une vraie volonté politique. Mais ça, c'est dans le monde merveilleux de oui, oui. Et bien, écoute, je ne peux que ne pas te donner mon avis. mais voilà, je ne peux que ne pas te donner mon avis. Non, autre point important dans l'actualité, quand même. Alors, ça date, parce que l'actualité va vite, mais en même temps, ça n'était pas d'actualité mardi dernier. Le fait que le roster, la Dream Team de l'Union européenne est constituée. J'imagine que ça ne vous a pas échappé. J'espère que ça ne vous a pas échappé. Si ça vous a échappé, je pense qu'il est bon que vous soyez au courant quand même que tous les postes importants de l'Union européenne commencent à être renouvelés. Évidemment, vous n'avez pas raté les élections législatives. Les élections européennes du 26 mai dernier, que nous avions commenté les résultats ensemble sur Acropolis à l'occasion d'une soirée spéciale en partenariat avec la représentation en France de la Commission et du Parlement européen. Allez voir le replay sur la chaîne YouTube Acropolis Replay, je vous mets un point d'exclamation YT dans le chat. Et donc les top jobs commencent à être renouvelés. Il y a déjà évidemment le président du Parlement, enfin je dis évidemment, mais peut-être pas, hein, peut-être que pas du tout. Qu'une escroc est donc à la tête de la BCE, nos diffamations. Est-ce que c'est pour escroquerie qu'elle a été condamnée? D'autant qu'en plus c'est par la CJR, donc je ne sais pas si ça se discute. Bref, ils ont trouvé le nouveau président de la commission, tout à fait, Jojo. Et donc, nouveau président du Parlement européen qui a été élu, l'Italien David Sassoli. Je ne suis pas du tout italien, j'ai sans doute un très mauvais accent. David Sassoli, nouvelle future présidente de la Commission européenne. Alors, il faut qu'elle soit validée, etc. Machin, mais bon, disons qu'il y a très peu de chances que ça n'arrive pas. Ursula von der Leyen, qui était jusque-là ministre de la Défense d'Allemagne. Elle vient de la CDU, qui est un parti de droite en Allemagne, qui est le parti d'Angela Merkel. Elle sera flanquée de trois vice-présidents, de quatre, enfin d'au moins quatre vice-présidents, à savoir Frans Timmermans pour le Parti socialiste européen, donc la gauche, quoi. Margrethe Vestager que pour les libéraux, donc on va dire les centristes, la centre-droite, enfin en gros le Macron et ses alliés. Qui elle était déjà vice-présidente de la Commission européenne en charge de la concurrence, notamment, c'est elle qui avait mis pas mal de. Enfin, qui avait lancé les procédures pour mettre des prunes à Google, Apple, etc. Marco. Ah, évidemment, je vais me tromper sur son nom, donc attendez, je vais. Maros, c'est ça, Maros Sefcovic, pour comme troisième vice-président de la Commission, qui lui est social-démocrate. Et quatrième, alors, vice-président. Oui, il faudrait que je vérifie les traités, mais je pense que le haut représentant de l'Union pour les Affaires étrangères est forcément vice-président de la Commission. Il faudrait que je vérifie, mais je crois, je suis quasiment sûr. À savoir, en l'occurrence, Josep Borrell, qui était jusqu'à maintenant, qui est peut-être encore, ministre des Affaires étrangères du Royaume d'Espagne, car c'est un royaume, ne l'oublions pas, du Royaume d'Espagne, et. Qui ai-je oublié? Charles Michel, Premier ministre, enfin, Premier ministre belge, ancien Premier ministre belge, mais encore en exercice pour expédier les affaires courantes parce qu'on est en crise politique en Belgique depuis 6 mois, etc., etc. La Belgique, c'est toujours compliqué, on adore. Mais Charles Michel, donc Premier ministre sortant de la Belgique, on va dire.
Dont la mère a perdu son chat.
Premier ministre sortant de la Belgique, qui lui sera président du Conseil européen, donc le Conseil des chefs d'État et de gouvernement, à ne pas confondre avec le Conseil de l'Union européenne, qui est lui le Conseil des ministres, dont la présidence est tournante entre chaque pays tous les 6 mois. Charles Michel, qui j'oublie, Christine Lagarde à la tête de la BCE, de la Banque centrale européenne. Christine Lagarde qui donc va quitter, a quitté, enfin, s'est mis en retrait de son poste au FMI et le quittera si elle est élue présidente de la BCE, la Banque centrale européenne, et donc Christine Lagarde qui est évidemment issue du Parti populaire européen, donc comme Ursula von der Leyen et Angela Merkel. J'ai l'impression que j'oublie quelqu'un. J'en oublie un ou pas? La Belgique est en crise politique depuis 1830. C'est moi pour les municipales, les candidats à l'REM sont tous déjà députés, c'est courant. Le truc, c'est qu'ils n'ont pas un personnel politique extrêmement large chez La République En Marche. Hein, donc forcément, ils sont. Enfin, et puis bon, peut-être que certains sentent que. Le truc, c'est qu'une bonne partie des députés dépendent du fait du roi, d'une certaine manière, puisque n'importe qui, je me souviens sur Twitter, j'avais lu au moment des élections législatives un tweet assez méchant qui disait même une chaise avec l'étiquette LREM peut être élu député, et ensuite se moquait d'une sortante du Parti socialiste qui n'avait pas été élu député malgré son étiquette La République En Marche, je ne donnerai pas de nom. Mais donc oui, comme ils ont tous été élus grosso modo grâce à l'étiquette La République En Marche, ils sont très dépendants du fait du roi. Si jamais La République En Marche ne veut pas les réinvestir aux prochaines élections, et comme La République En Marche a promis le renouvellement en permanence, il y a de fortes chances que les législatives de 2022 ne soient pas tous renouvelés, et bah les municipales, c'est un moyen pas trop compliqué pour pas mal d'entre eux de réussir à se trouver un endroit où avoir un mandat qui dure plus longtemps, enfin jusqu'à plus tard que 2022. Et voilà, donc. Ça permet de faire connaître les suppléants aussi. Oui, c'est ça. Ils vont très probablement vous le vendre sous la forme de renouvellement du personnel, etc., etc. Mais bon, voilà quoi. C'est Villani le candidat à Paris. On ne sait pas, Villani, il est candidat à la candidature La République En Marche à Paris. Mais les candidats à Paris, alors Mounir Majhoubi a jeté l'éponge et a soutenu et a apporté son soutien à Cédric Villani. Mais il y a encore comme candidat qui existe encore à ma connaissance, Hugues Rançon, je pense qu'il ne s'est pas retiré, qui est donc député La République En Marche. Benjamin Griveaux, bien entendu, qui est le favori chez La République En Marche, mais qui n'est pas favori non à l'échelle de Paris pour autant, et qui serait. Il se murmure le favori d'Emmanuel Macron. Et qui d'autre?
Ils sont plus que trois apparemment.
Ils sont plus que trois, c'est tout. Donc il n'y a plus. Ouais. Donc il n'y a plus que trois. Hommage à Patrice Aiglerneau, effectivement, The Roux, on en a parlé tout à l'heure. Ça se décide quand l'investiture LREM à Paris? Je ne saurais pas te répondre, Lady Cassidy. Je ne sais pas. Je
Ce
ne sais
soir
pas.
apparemment.
Ce soir?
D'après le studio, d'après les gens qui
Ok.
hurlent
Ok.
pour en faire entendre leur avis.
Eh bien écoutez, rendez-vous ce soir sur le Twitter de La République En Marche, j'imagine, je ne sais pas.
C'est pas très gentil, énigmatique.
Il y a quelqu'un qui fait des sondages chez La République En Marche, je veux dire, il pense vraiment que les Parisiens ont filé la mairie à Villani, il faut l'entendre parler le type 1. Alors, faut pas oublier que l'élection à la mairie de Paris, c'est une élection indirecte. Ce sont les conseillers de Paris qui votent pour le ou la maire de Paris. Conseillers de Paris, il y en a un certain nombre dans chacun des arrondissements. Vous ne votez pas pour le ou la maire de Paris, vous votez pour les listes dans les arrondissements. Il suffit de remporter, enfin, il suffit. De remporter assez d'arrondissements, et encore je vous dis ça, vous pouvez être maire sans avoir la majorité des arrondissements, il suffit de remporter assez de conseillers d'arrondissement, enfin, il suffit de remporter assez de conseillers de Paris, c'est un peu particulier comme élection en direct, mais pour pouvoir être élu maire, vous pouvez être élu maire en n'ayant pas la majorité des conseillers d'arrondissement, je crois, mais en tout cas en n'ayant pas la majorité des arrondissements, et voilà. C'est comme ça qu'à Paris, non, c'est comme ça à Lyon et Marseille, je pense.
Bah, toutes les
Et
villes des arrondissements, non? C'est...
toutes les villes où il y a des arrondissements, je pense, à vérifier, parce qu'il y a une loi, la loi PLM,
Loi
Paris-Lyon-Marseille,
PLR.
qui régit ces trucs-là. Et donc, je sais pas, je suis pas expert pour Lyon et Marseille, mais je pense que ça fonctionne de la même manière pour Lyon et Marseille. Étant parisien, je connais surtout Paris, hein, mea culpa.
Suis parisien aussi, moi.
Mais sinon, ça marche comme ça pour toutes les autres villes, en fait, d'une certaine manière. Alors, pas exactement comme ça, mais toutes les mairies, ce sont des élections indirectes. Vous ne votez pas pour le maire, vous votez pour une liste dont le tête de liste probablement deviendra maire un jour aussi, quoi. Lille peut-être aussi, je sais pas, possible. À vérifier. Je vous laisse vérifier parce que voilà. Genre collège électoral, tu peux avoir effectivement le même genre de phénomène que le collège électoral américain, Théo le zombie. À propos du collège électoral américain, je suis en train de lire un bouquin en ce moment qui est hyper mal écrit mais hyper intéressant. Alors hyper mal écrit parce que donc c'est écrit par c'est un bouquin qui s'appelle It's Time to Fight Dirty, donc il est temps de se battre dans la boue, en gros, traduction approximative. Je suis pas sûr qu'il y ait traduction en français du bouquin, mais c'est par David Ferris qui est un prof de sciences politiques américaines, enfin prof américain de sciences politiques, et il liste tous les il y a pas l'histoire de secteur à Marseille, oui c'est probable effectivement, Mister Oslo. Il liste en gros tout ce qui ne va pas dans la démocratie américaine et comment est-ce que les démocrates peuvent faire pour changer, pour rétablir la balance exagérément en faveur des républicains, le fait qu'il y ait plein d'États, de petits États qui donc votent, donc des États ruraux qui votent républicains, etc., et qu'ils aient beaucoup plus de pouvoir alors que les démocrates ont genre deux tiers des voix, ils ont un tiers des sièges au Sénat, etc. Enfin, pas un tiers, minorité au Sénat, etc. etc. Et donc c'est marrant parce que le bouquin est très mal écrit parce que régulièrement le mec se lâche en se mettant à insulter tout le monde, tous les républicains, etc. Genre vraiment insulte sévère, quoi. Mais très intéressant sur les fonctionnements institutionnels des États-Unis. Et voilà, je vous raconte ça. Les secteurs rassemblent deux arrondissements pour former une mairie à la façon des mairies d'arrondissement à Paris. Ok, je sais pas comment ça marche à Marseille. Hein. Concrètement, chaque parti vote pour son candidat en priorité. Alors, attends, à quoi tu réponds? Du coup, pour savoir pour qui exactement on va voter, il faut se renseigner sur les listes qui se présentent dans son arrondissement. Oui, Mojo Power. Après, alors, si tu votes pour des listes qui sont pas dont le positionnement n'est pas clair, effectivement, oui. Maintenant, si tu votes pour la liste socialiste, il est à peu près sûr que la liste socialiste votera, enfin que ceux que tu amèneras à faire élire au Conseil de Paris. Voteront pour Anne Hidalgo. Pareil, si tu votes pour la liste La République En Marche, ils voteront pour le candidat de la République en marche, disons que ce sera Benjamin Griveaux probablement, donc ils voteront pour Benjamin Griveaux. Pareil pour les Républicains, ils voteront pour le candidat des Républicains. Je ne sais pas quel candidat des Républicains à la mairie de Paris. Je crois, il me semble que Retailleau voulait un moment, mais comme maintenant il est candidat
Présidence
à
du
la
parti.
présidence du parti, effectivement, je ne sais pas si c'est encore le cas. Peut-être que Rachida Dati reviendra, je ne sais pas. Voilà. Il est temps de frapper sous la ceinture. Oui, c'est une traduction qui marche aussi. Bah, la traduction littérale, ce serait il est temps de se battre sale, grand gay. La Cour suprême américaine a voté récemment pour affirmer que le gouvernement fédéral n'a rien à dire sur le gerrymandering. C'est un peu dingue. Bah, il y a beaucoup à dire sur la Cour suprême américaine, effectivement. En même temps, elle est remplie de ce qu'on appelle des originalistes, des gens qui estiment qu'il faut lire la Constitution comme si on était encore au moment où elle a été rédigée, donc en 1774. J'ai un doute. 1774, la Constitution. 1787, mea culpa. Attends, ça me...
Pareil.
1789, 1787. Pourquoi j'ai 1774 en tête? C'est 1774,
C'est la date
événement
de naissance de Sylvain.
Amérique. Attendez, Julie. Lalalala. Non, bah il n'y a rien de spécial en
Il y a
1700.
l'indépendance 76, mais.
Ah, alors, je dois confondre 74 et 76. Et l'indépendance 76, effectivement. Oui, les originalistes, certains les comparent à des fondamentalistes. Le bouquin que je lis les compare clairement à des fondamentalistes religieux. Il disait et dit que les gens qui estiment, enfin qui pensent ce que les originalistes disent de la Constitution américaine, les gens qui disent la même chose de la Bible, de la Torah ou du Coran, on appelle ça des terroristes. Le mec dit ça dans son bouquin, donc c'est vraiment des propos mesurés. Mais c'est rigolo parce que entre ces moments de pure rage du mec, t'as des moments hyper intéressants sur le fonctionnement du droit constitutionnel américain, quoi. La séance a commencé, faut qu'on lance un générique?
Non, pas du
Non,
tout,
non.
non.
Ok, tu vérifies. Édouard Philippe, candidat à la mairie de Paris, c'est complètement impossible ou ça peut jouer? Je vais te répondre la réponse facile qui est que la probabilité zéro n'existe pas. Maintenant, je vais te dire ce que moi j'en pense. Je pense que s'il l'était, il aurait. Je pense que c'est le chose, je pense que c'est le seul. Ça, c'est vraiment un avis au doigt levé. Merci Sissa pour ton 7e mois de soutien. Merci à toi. Je pense personnellement que c'est le seul qui réussirait à battre Hidalgo. Je pense que Griveaux ou Villani vont se planter royalement. Je pense que Mounir Majoubi aurait pu être en mesure de le faire, mais bon, voilà, parce qu'il a le côté jeune, cool, parisien, etc. Mais bon, ça c'est des avis. En revanche, est-ce qu'il sera candidat à la mairie de Paris? Je pense qu'il ne le sera pas. Je pense qu'il ne le sera pas. Pourquoi? Parce que je pense qu'Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à faire sortir Édouard Philippe. Vous expliquer pourquoi si vous voulez. Maintenant, est-ce qu'il peut l'être? Oui, il peut l'être. Peut-être qu'ils veulent absolument gagner la mairie de Paris et que du coup ils vont sortir Édouard Philippe. Mais je veux dire, il n'y a rien dans ce qui s'est passé ces 6 derniers mois. Je veux dire, là, il y avait d'excellentes occasions de le sortir et ils ne l'ont pas fait. Alors bon, ça aurait été le sortir en donnant l'impression qu'il est désavoué. Donc peut-être que voilà, peut-être que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas sorti à ce moment-là, s'ils veulent le sortir pour la mairie de Paris, etc. Mais voilà. En plus de ça, si la commission d'investiture est ce soir, je doute qu'ils changent leur plan entre-temps. Et voilà. Maintenant, la probabilité zéro n'existe pas. Et peut-être que voilà. Et la raison pour laquelle je pense que Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à sortir Édouard Philippe, c'est parce que Emmanuel Macron, pour l'instant, il est centriste face à deux partis. Alors, face à quatre partis, mais je veux dire. Les deux partis de gouvernement qui seraient susceptibles de reconquérir le pouvoir sont en miettes l'un et l'autre, le PS et les Républicains. Et donc Macron, pour l'instant, c'est le centriste, c'est le roi de la colline, quoi, pour ceux qui avaient joué à Age of Empires 2. En tant que roi de la colline, il a tout intérêt à ne pas se mettre un camarade au milieu dans les pattes, quoi, en concurrent. En laissant Édouard Philippe en Premier ministre, Édouard Philippe a un débouché tout naturel qui est de continuer à être Premier ministre tant qu'il se gaufre pas. Si jamais il débauche Edouard, enfin il pas il débauche, enfin il jarte Édouard Philippe, ce serait quand même stupide. Enfin, ce serait quand même très dangereux pour lui, pour Emmanuel Macron, qu'aux élections présidentielles prochaines, on ait Édouard Philippe face à Emmanuel Macron, quoi. Imaginez si en plus on a, je sais pas, Édouard Philippe versus Emmanuel Macron versus Rachida Dati versus Xavier Bertrand versus Valérie Pécresse versus
Patrick Balkany.
Balkany versus NKM versus Bruno Le Maire versus François Bayrou, faut pas l'oublier aussi, etc., etc. Je veux dire, s'il y a 1000 centristes qui se présentent, je ne sais pas lequel des deux partis, du PS ou des Républicains, gagnera, mais c'est l'un des deux qui gagnera, ce ne sera pas les centristes, quoi. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient là il y a, je sais pas, 5 ou 6 QAG, quand avec Mathilde, je vous ai présenté le théorème de l'électeur médian. Si vous mettez 20 centristes au milieu, le gagnant, il se retrouve autre part dans le spectre politique, quoi. Voilà pourquoi je crois que Emmanuel Macron n'a aucun intérêt à sortir Édouard Philippe, et pourquoi, et je pense que c'est pour ça qu'il ne le fera pas, et que qu'est-ce qu'il y a? Ouais, ça va, on n'est pas une minute près. Et je pense que c'est pour ça que qui prendrait la place de PM, j'en sais rien. On lance un petit générique et on en discute. Alors vous rigolez, à Macron le centriste, le positionnement politique qu'il cherche à occuper, c'est celui-là. Après, est-ce que les lois qu'il met en place sont du centre, de gauche ou de droite, à chacun de juger. Mais en termes de positionnement, c'est clairement en disant je suis ni de gauche ni de droite, et de gauche et de droite, on peut faire des accords avec tous les partis, on peut faire des listes communes avec tous les partis, etc. C'est clairement le positionnement qu'ils essayent d'occuper. Après, est-ce que la politique qu'ils mettent en place et centriste, ça c'est une autre question. Vous pourrez la poser à ce cher Sylvain. Mais voilà. Si on continue dans la politique fiction qui prendrait la place de Premier ministre, qui a les épaules assez solides pour remplacer Édouard Philippe après plus de 2 ans de mandat, j'ai envie de te dire que j'en sais rien. Et j'ai envie de te dire que est-ce que tu connaissais Édouard Philippe le 1er avril 2017? Je ne sais pas toi, mais moi j'avais peut-être entendu son nom une fois, pas plus. Et clairement, je ne sais pas si la fonction a fait l'homme, mais en tout cas, l'homme s'est montré à peu près à la hauteur de la fonction. Et personne ne connaissait Macron il y a 5 ans. Donc, je veux dire, des gens qui ont les épaules solides, il en existe, c'est pas parce qu'on les connaît pas que voilà, quoi. Et d'ailleurs, le personnel politique se renouvelle.
Monsieur le Premier ministre, mesdames et
La séance
messieurs les
commence,
ministres,
je
mesdames et
pense,
messieurs
par
les députés, chers collègues,
un hommage à
c'est
Patricia
avec
Galerno.
une infinie tristesse que nous avons appris le décès de notre collègue Patricia Galerno, dont chacune et chacun appréciait ici la personnalité vive, enjouée, aimable, tout entière au service de la collectivité.
Les études sur les élections, non, c'est des cartes
Patricia
intéressantes
Galerno
et
se savait condamnée depuis des mois. Malgré le poids de la fatalité qui s'abattait sur elle, notre collègue a continué d'assumer ses responsabilités parlementaires. Ses combats pour la Loire-Atlantique, pour Pornichet, puis pour la Vendée, pour l'Europe, pour l'écologie. Elle les a menés avec cette force de conviction et cet esprit d'ouverture que nous lui connaissions. Avec une singulière dignité, elle est partie comme elle a vécu, pudique et retenue. L'Assemblée nationale a perdu une députée exemplaire, car Patricia Galerno incarnait au-delà des mots le dévouement et le sens de l'intérêt général. À sa famille, à ses proches, à ses collègues du groupe Modem, à ses collaborateurs aussi, j'adresse, au nom de la représentation nationale, mes condoléances attristées. Je prononcerai son éloge funèbre lors d'une prochaine séance. En hommage à notre collègue décédé, je vous invite à observer 1 minute de silence.
Une minute de silence, c'est une incubation que je ne sais pas. Si le mot est bon pour Patricia Galerno, vous le voyez, l'Assemblée nationale très solennelle. Alors, je ne sais pas si vous voulez que j'interrompe la minute de silence ou pour répondre à des questions ou si je me tais et on y participe. Je ne sais pas, j'hésite. Le silence, c'est pour
Je vous
rendre
remercie.
hommage à Patricia Galerno, députée MoDem, décédée il y a quelques jours, suite à un cancer, je crois.
L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur.
Une vraie minute qui dure une minute, ça doit être une première à la haine. On le dit à chaque fois que ça dure une minute, donc ce n'est pas une première. Ça ne coûte rien de la faire, donc autant la faire, tout à fait, Bénave, effectivement. Et puis c'était une de leurs collaboratrices. Patrick Mignola, président du MoDem.
Président, et merci pour les mots que vous venez de prononcer.
Président du groupe, dont Patricia Galerno.
Au nom du groupe qu'elle honorait de son appartenance et de toutes celles et ceux ici qui nous ont fait part de leur émotion et que je remercie, je voudrais, monsieur le Premier ministre, rappeler ces combats écologiques, sociaux et territoriaux. La biodiversité d'abord, qui fut de tous ses engagements le premier et celui de toujours. Elle en fut une des pionnières il y a plusieurs décennies. Elle accepta même d'en être un peu solitaire avant beaucoup d'entre nous, quand elle milita pour le bien-être animal et la protection des espèces. La dignité humaine que nous devons à tous ceux qui vivent aux franges de la société, souvenons-nous de ces luttes pour les conditions de vie en milieu carcéral. L'enracinement territorial dans cette Vendée éternelle qu'elle chérissait, parce que les racines les plus fortes sont celles qu'on choisit. Patricia Galerno avait compris très tôt, avec François, Marielle, Marc et les autres, ce paradoxe que plus fortes sont les convictions et plus immenses sont les tâches, plus elles exigent de dépasser les clivages et de faire ensemble ce qu'on mènerait moins bien seul. Elle était une parlementaire comme nous espérons tous l'être. Une députée engagée sur un projet pour le pays avec loyauté et une élue locale animée de convictions personnelles forgées par son parcours et son expérience. Ces derniers mots ici furent pour citer Marek Alter. La violence commence là où la parole s'arrête. Parlez, parlez toujours, même avec ceux qui ne pensent pas ou ne croient pas comme vous, pour que la violence ne prenne pas la place de l'humanité.
Je te répondrai plus tard, Gilles
Loire. C'est ce message que nous voulons retenir de cette femme entière.
Je note.
Et si chaleureuse, en la remerciant pour ce qu'elle a accompli et en pensant très fort à son époux, à ses trois fils et à Ninon, Arthur et Victor, ses petits-enfants. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Président.
Voilà, Patrick Mignola, président du groupe MoDem, qui rend hommage à Patricia Galerno. Vous voyez l'Assemblée nationale, standing ovation pour Patricia Galerno en sa mémoire. L'Assemblée nationale unie face à la mort.
La parole est à Monsieur le Premier ministre.
Monsieur le Président, Monsieur, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Mignola, les mots que le chef du gouvernement va prononcer auront moins de portée et toucheront moins le cœur des proches de celles que nous avons connues que les applaudissements qui viennent de retentir sur l'ensemble de ces bancs dans cet hémicycle qu'elle aimait tant. C'est une marque d'hommage, c'est une marque de respect, c'est une marque d'amitié qui montre que dans cet hémicycle par essence bruyant, par essence fait de confrontations qui sont légitimes et qui sont démocratiques, par essence fait de passions qui s'opposent, il y a le respect, l'engagement et la conviction que nous avons tous ici que cet engagement électoral, cette vie très particulière,
fait de formidables
moments d'accomplissement.
Il le fait sans, il lit pas un texte, et de moments non, moi difficiles. Je trouve que ça sort bien.
Que cette vie vaut d'être vécue et vaut d'avoir été vécue. Il y a quelques mois, je répondais à une question posée par Patricia Galerno, ici, après qu'elle avait eu à connaître à son domicile privé de menaces et d'actes que personne ne tolère et ne peut accepter.
Effectivement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait commenté ça.
Je lui avais indiqué combien l'engagement politique qui était le sien, qui est le nôtre, qui est celui de milliers, de dizaines de milliers d'élus locaux, combien cet engagement pouvait avoir un coût d'une certaine façon, un coût humain, un coût familial, mais combien il était estimable et combien il devait être accompli. Et toute sa vie politique, et au fond toute sa vie, Patricia Galerno a cru que l'on pouvait s'engager dans une action collective pour transformer la réalité et améliorer les situations que nos concitoyens vivent. C'est une conviction très simple et absolument remarquable. Elle l'a mis en œuvre toute sa vie dans les sujets que vous avez évoqués, que le président Ferrand a rappelé.
C'est vrai qu'il a failli...
Dans sa façon de les porter.
Il s'en est approché.
Qui est au moins aussi importante que les sujets que l'on porte. Et au fond, monsieur le président, je vous réponds avec beaucoup de tristesse qui est partagée ici, mais aussi beaucoup d'espoir. Parce que les vies qui ont valeur d'exemple sont les plus belles. Et Patricia Galerno, comme beaucoup d'entre vous, mesdames et messieurs les députés, sont des exemples. C'est une responsabilité exceptionnelle. Elle l'a portée jusqu'au bout, contre la maladie, parce qu'elle savait que son engagement politique et son mandat commandaient. Et nous pouvons tous, collectivement, être fiers d'elle.
Où peut-on voir la liste des députés intervenant sur la feuille jaune, mon cher Lit, LYT, Lit, hop, est-ce que... Non, ça marche pas. Bon, quelqu'un te mettra le lien de la feuille jaune dans le chat, j'en suis sûr.
Merci, monsieur le Président.
Fanny Dufosse, tu fais un excellent bout. Merci à toi.
Merci, monsieur le Président. Difficile de prendre la parole après ce bel hommage. Monsieur le Premier ministre, harcèlement, excision, mariage forcé, violence physique et sexuelle. Combien sont les victimes, femmes ou hommes, à périr sous les coups de leur mari, conjoint, concubin ou partenaire ?
Combien d'enfants victimes collatérales
en restent marqués à vie ? En 2018, 130 femmes, 16 hommes et 25 enfants tués directement dans le cadre des violences conjugales.
Qui décède, c'est normal
76
que...
femmes depuis le début de l'année. Au nom de ces victimes, mettons fin aux postures, aux clivages et aux discours. Aussi sur les violences conjugales, nous vous demandons d'accepter nos propositions qui sont prioritairement généraliser le bracelet électronique et le faire payer aux conjoints violents, organiser une justice spécialisée, conserver une trace des plaintes et des mains courantes même quand les femmes sous emprise se rétractent, cesser de considérer le conjoint violent comme un bon parent et protéger les enfants en les éloignant, créer un fichier national des personnes violentes, fournir un extrait de casier judiciaire lors d'un mariage, développer des hébergements, notamment d'urgence, et bien d'autres mesures qui figurent dans nos propositions. Aussi, monsieur le Premier ministre, allez-vous associer sans sectarisme l'ensemble de la représentation nationale et tenir
compte du bug ? Valérie Boyer qui défend sans doute une proposition...
Nos propositions. La lutte contre les violences conjugales est une cause universelle qui mérite l'unité nationale et qui ne doit souffrir d'aucune excuse, même culturelle. Nous sommes enfin unis sur cette question, même si nous aurions tort de considérer qu'un énième Grenelle réglera tout. Approuvons sans réserve les mesures qui permettront d'arrêter à temps le geste fatal. La violence commence où la parole s'arrête, disait Marek Alter, car la violence est l'arme du faible, le refuge de l'incompétent. Au courage des victimes qui dénoncent leurs bourreaux, nous ne pouvons pas répondre par la lâcheté, le silence, la division, la com ou l'inaction. Je le dis à ces victimes, vous n'êtes pas seuls. Et je sais que l'ensemble de la représentation nationale le dit à ses victimes, vous n'êtes pas seuls.
Merci, madame la députée.
Ah, les fichages généralisés comme solution, toujours une bonne idée, effectivement, dit Schmouten. Je l'ai noté, c'est une des propositions de Valérie Boyer. Valérie Boyer qui parle pour Les Républicains. Elle est vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes et présidente du groupe d'études sur les violences intrafamiliales.
Merci, monsieur le président, mesdames et messieurs les députés.
Madame, fait la voix des propositions des Républicains pour lutter contre les violences.
Vous avez raison de le rappeler, les violences envers les femmes, les violences sexistes et sexuelles sont protéiformes et il existe
aux annonces de Marlène Schiappa qui a dit qu'il nous fallait un Grenelle
qui prennent toutes leurs sources dans un même phénomène et se fait phénomène, c'est le sexisme qu'il faut combattre à la racine.
Grenelle qui rendra ses conclusions le 26 novembre, il me semble.
Deux ans dans le cadre de la grande course vis-à-vis de la République avec un travail ministériel important
2020.
Sur l'ensemble des sujets que vous avez cités, le plan excision.
Je veux dire que le 26 novembre 2019, le PLF 2020, il est essentiellement bouclé. Les arbitrages sont faits.
Sexistes et sexuelles, la loi à laquelle les parlementaires
au mieux,
ont pu
ça peut intégrer le PLF de 2020 pour l'année 2021.
Les violences sexistes et sexuelles. Et
PLF, c'est le budget de la France,
pour rappeler. Un Grenelle des violences conjugales qui se tiendra le 3-9-19 en référence au 39-19. Madame la députée, dans votre question, vous formulez un certain nombre de propositions dont beaucoup me semblent très pertinentes et méritent d'être étudiées. Certaines ont déjà commencé à l'être. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a par exemple récemment fait des annonces importantes sur la généralisation du bracelet électronique. Nous pourrons y revenir tout à l'heure. Et la question de l'accueil des femmes dans les commissariats est traitée par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, avec qui nous étions il y a 2 semaines dans un commissariat de police auprès des forces de l'ordre, avec des psychologues, des assistantes sociales, pour faire en sorte que la parole des femmes soit entendue et que aucune femme ne ressorte du commissariat où elle a déposé plainte sans une solution pérenne pour la sauver. Toutes ces actions qui sont menées, elles sont accompagnées d'actions de communication, parce que je crois que communiquer est important. Lorsque vous mettez en place des politiques publiques innovantes mais que personne ne les connaît, eh bien personne ne peut s'en saisir. Si vous lancez une plateforme de signalement et de dialogue avec les policiers sans communiquer dessus, les femmes ne savent pas qu'elles existent et ne peuvent pas s'en saisir. C'est la raison pour laquelle ce Grenelle associera tout le monde, le plus largement, toutes les bonnes volontés, toutes les parties prenantes, d'où qu'elles viennent. Madame la députée, vous êtes évidemment la bienvenue à ce Grenelle des violences conjugales.
Merci, madame.
J'ai pas compris ta question, Xan. Elle a dit 3-9-19, c'est 3 septembre 2019, parce que c'est le numéro qui a été mis en place...
71.
Si jamais 72, vous avez des problèmes de violence conjugale.
73. 74.
Et alors, je ne sais pas sur Twitter qui
madame la
soutient les enseignants en grève, je n'ai pas vu Sorbio.
Quand
j'ai raté, il y a eu un.
Arrêter ce décompte morbide.
Une erreur de stagiaire, c'est ça ?
Victime de féminicide depuis le 1er janvier. C'est un chiffre insupportable. En France, en 2019 encore, alors, une femme meurt tous les deux jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon. Il ne faudrait surtout pas minimiser les efforts importants engagés depuis 2 ans. Nous avons adopté une loi contre les violences sexistes et sexuelles. Nous avons mis de nouveaux moyens sur le téléphone grave danger. Nous avons renforcé l'accueil au numéro d'urgence 3919. Nous avons créé une plateforme de signalement en ligne.
Un Grenelle, c'est quoi ? C'est
7 jours sur 7. Si ce sont des avancées importantes, ce chiffre de
75 tous les ministres et tous les acteurs importants et on discute
collective
pendant longtemps pour trouver des solutions et
Madame la ministre,
et mettre en place
ce fléau ne date pas d'hier, mais il nous faut déclarer
de Grenelle,
un état d'urgence. Des femmes de tout âge, de toute origine, de tout milieu social, de métropole comme des outre-mer, continuent de mourir. Parfois, elles ont crié au secours, elles ont déposé plainte. Nous devons comprendre les dysfonctionnements et y remédier. Des mesures concrètes sont déjà sur la table et je me réjouis des mesures annoncées par la garde des Sceaux, notamment sur la mise en œuvre généralisée du bracelet anti-rapprochement pour lequel nous militions ardemment dans le Val-d'Oise. Vous avez également annoncé un Grenelle des violences conjugales. La parole des femmes et des associations doit y être centrale pour en dégager une action d'ampleur. Je sais que c'est votre ambition et vous pourrez compter sur le soutien total de cette majorité. Alors que nos concitoyens attendent des réponses fortes, pourriez-vous, Madame la Ministre, nous préciser davantage les contours de ce Grenelle et les ambitions concrètes du gouvernement pour en finir avec ce fléau des féminicides ?
Ça a l'air d'être très souvent utilisé, Grenelle, état d'urgence. Oui, Grenelle, c'est très souvent utilisé parce que c'était un moment marquant de l'histoire de France, puisque Grenelle, c'était tenu juste après mai 68.
Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Fiona Lazar. Je vous remercie pour votre question.
On a un problème, on va mettre en place une grosse solution, un Grenelle. C'est l'idée du mot Grenelle. Oui, c'est une question Choupa Gaëlle, effectivement, une question Choupa sur la lutte contre les féminicides.
Le gouvernement fait depuis 2 ans tout ce qui est en son pouvoir. Vous l'avez rappelé. Mais le gouvernement ne pourra pas tout seul.
Par Fiona Lazar. Fiona Lazar, elle est vice-présidente de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.
J'étais ce matin pendant plus de 2 heures avec la totalité des associations qui accueillent des femmes.
Comme Valérie Boyer juste avant elle.
Au niveau national. Et la totalité de ces associations m'a assuré de son soutien dans le cadre de ce Grenelle des violences conjugales et de leur participation active. Elles ont d'ores et déjà proposé de nombreuses propositions, formulé de nombreuses propositions.
Ce Grenelle, il se déroulera à Matignon. gouvernement.
Il sera conçu par le Premier ministre.
J'aurais tendance à dire Edouard Philippe.
Il impliquera l'ensemble des ministres concernés, mais aussi les associations, les représentants des victimes et des familles de victimes, les services de justice.
Il y a une question deux fois de suite. Oui, mais une fois par les Républicains et une fois en version choupa par la République en marche.
Concentré pour travailler sur les disparités territoriales. Nous allons examiner ensemble l'ensemble des dysfonctionnements parce que le delta est trop grand entre la politique impulsée par le gouvernement et la réalité que l'on trouve parfois sur le terrain, comme je l'ai fait pour plusieurs
récits. Le badge, quelqu'un sait ce que c'est ?
En réunissant toutes les parties prenantes au ministère afin de construire l'ensemble des politiques publiques. Ce Grenelle, il s'achèvera le 25 novembre.
Je vois le signe d'un homme, enfin, le signe masculin et féminin. Les signes d'ailleurs.
Et il sera accompagné d'une mobilisation nationale autour du numéro du 3919. C'est pour cela qu'il sera lancé le 3919. Plusieurs personnalités s'engageront, plusieurs groupes.
Voilà, Xan, tu as la réponse à ta question.
D'accord pour un partenariat afin de diffuser le plus largement possible et de sensibiliser chacun à ce numéro de téléphone. Bien évidemment, des moyens supplémentaires seront mis en face des politiques publiques supplémentaires. J'ai d'ores et déjà annoncé ce matin à la Fédération nationale Solidarité Femmes que nous leur demandions une estimation des besoins supplémentaires que cette campagne va engendrer afin de pouvoir dégager les subventions nécessaires ainsi que les places d'hébergement en urgence cet été sans même attendre le Grenelle.
Merci,
ce sont
la
des
ministre.
Actes. Je vous remercie.
Juste pour info,
la parole est à monsieur Robin Reda.
Allez, je me permets de couper.
Vas-y.
Juste pour info, le pins, alors je sais pas exactement ce que c'est, mais justement, tu disais c'est rose et bleu. En fait, non, justement, j'ai vérifié. En fait, les couleurs sont inversées. C'est-à-dire qu'en fait, le symbole féminin est en bleu et le symbole masculin est en rose. Justement, je pense que c'est pour marquer la. Effectivement, aussi, je me disais, oula, c'est un peu bizarre.
Ouais, mais, pas ouf le message.
Voilà, mais en fait, non, c'est inversé, justement, je pense, okay. Pour montrer, voilà, pour briser les codes.
C'est bien.
Merci, Monsieur le Président.
Cela dit, je rappelle qu'il y a longtemps, les couleurs étaient inversées. On considérait que le rose était la couleur des garçons et le bleu la couleur des femmes.
Monsieur le Ministre, vous avez mis un lien il y a deux, trois. Le proviseur du lycée Marcel Pagnol a été victime d'une agression incroyable par deux lycéens qui n'étaient pas de l'établissement sous prétexte qu'ils étaient mécontents de ne pas avoir obtenu leur baccalauréat. Cette agression est absolument scandaleuse et au nom de la représentation nationale, je voulais assurer Monsieur le Proviseur.
Ça, je sais qui c'est ma pote Léa, elle habite à Tisson, je sais qu'elle veut braquer les proviseurs. Léa.
Je veux dire aussi que cette agression n'est malheureusement pas un cas isolé. Elle vient faire écho à la déferlante de violence dans les lycées de banlieue que nous avons connue en décembre et au printemps dernier. Nous n'oublions pas la peur ressentie par cette professeure braquée par un élève en octobre dernier où il ne fallait pas faire de vagues. Nous devons assurer à l'ensemble de la communauté éducative, professeurs, proviseurs,
faire de vagues, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une campagne sur Twitter des profs qui disaient
parents, élèves, notre détermination à faire face devant
qui avaient raconté ce qu'ils enfin leur vécu
il est grand temps d'arrêter la violence scolaire. Comment voulez-vous que les enseignants, que les élèves, que les parents aient confiance dans l'école de la République si la République est incapable de protéger ceux qui transmettent, ceux qui donnent tout pour faire réussir nos jeunes? Cette violence intolérable, Monsieur le Ministre, je ne la confonds pas avec l'inquiétude et la colère des milliers d'élèves et parents qui ont vécu ce qui restera sans doute comme l'une des pires organisations du baccalauréat moderne. La vérité, c'est que ce bac 2019 n'est que le résultat d'une complète désorganisation et d'un manque d'anticipation. Mes deux questions sont simples, Monsieur le Ministre. Comment comptez-vous rétablir efficacement et durablement l'ordre dans nos établissements scolaires? Quelles mesures comptez-vous prendre pour que ce baccalauréat 2019 ne reste pas dans les mémoires comme un bac à deux vitesses et démonétisé? La vérité, c'est que l'été est déjà gâché pour des milliers d'élèves, pour des milliers de familles et pour des professeurs.
Robin Reda qui se fait...
La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer.
Qui a décidé de traiter les violences au lycée, au collège, à l'école, ainsi que l'organisation perfectible, très clairement perfectible.
Merci,
de ce bac 2019.
Députés,
Robin Reda.
Monsieur le député, votre intervention a...
Et plus chez LR, il est
quand même très différent. Je pense que vous le reconnaissez.
Michel Pécresse aujourd'hui, Robin Reda.
En premier lieu, vous avez parlé de cette agression tout à fait scandaleuse qui a eu lieu hier d'un proviseur d'Atis-Mons. En effet, bien entendu, nous avons déployé tout ce qu'il fallait auprès de ce proviseur. Nous avons, j'ai pu lui dire toute ma solidarité d'une part. La rectrice de Versailles en a fait de même. Et cet acte est absolument scandaleux. Je tiens à dire que les deux jeunes personnes qui sont les agresseurs de ce proviseur font l'objet évidemment d'une plainte, ont été interpellés par la police et bien entendu la suite judiciaire maintenant appartient aux autorités de justice, mais c'est évidemment la plus grande sévérité qui doit suivre ce qui s'est passé. Donc c'est l'occasion tout de même de souligner le rôle des chefs d'établissement dans notre pays. Ils ont été, et vous l'avez rappelé à juste titre, en première ligne de violences qui ont eu lieu au mois de décembre en particulier, et ils sont en première ligne de bien des problèmes de notre société. L'agression de ces jeunes n'a rien à voir avec l'organisation scolaire ou même avec l'école elle-même, elle a à voir avec la violence de ces jeunes qu'ils ont exercé là, mais comme ils ont déjà un casier judiciaire, en réalité ils l'ont exercé à d'autres reprises. Il faut donc se dire que les chefs d'établissement aujourd'hui ont droit à toute notre solidarité. Ils l'auront dans le cadre du plan anti-violence que nous préparons, vous le savez, avec la garde des Sceaux, avec le ministre de l'Intérieur, sous l'autorité du Premier ministre, depuis plusieurs mois, et qui sera en vigueur à la rentrée prochaine. Nous pouvons donc évidemment manifester tous ensemble, et sans chercher de polémique, notre solidarité avec ce proviseur. Et oui, des mesures nouvelles vont faire en sorte que l'année 2019-2020 soit une année caractérisée par la lutte contre cette violence qui touche non seulement nos chefs d'établissement, mais aussi les professeurs et les personnels. Quant à l'organisation du baccalauréat, j'ai eu l'occasion de m'exprimer beaucoup, mais je vais le faire ensuite. Ce qui est important, c'est déjà d'afficher l'unité de la représentation nationale contre la violence qui s'exerce contre les personnes.
Merci.
Vu que je sais quelles questions vont m'être posées, je vais le faire ensuite.
Monsieur Jean-Michel Clément.
Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout d'abord dire au nom de mon groupe toute notre compassion à la famille de Patricia Galarneau et à nos collègues membres de son groupe. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, nous allons aborder l'examen du projet de loi autorisant la ratification du CETA quelques jours seulement après l'annonce du compromis sur le Mercosur. Cette manière de faire pose une vraie question démocratique. Des négociations initiées en 2004, un accord signé en 2016, un accord déjà appliqué de manière provisoire...
Comment ça, ils connaissent les questions? Il se doute qu'il y a probablement un député de La République En Marche qui va lui poser la question qu'il
lui attendait de poser. C'est l'opacité qui a entouré les négociations de ce traité qui interroge. Traité qui affecte directement nos modes de production, mais aussi nos modes de vie. J'ai l'impression avec le CETA, et plus encore avec le Mercosur, que nous sommes embarqués dans une machine à remonter le temps. Mais les temps ont changé. Au siècle dernier, on pouvait se convaincre que le commerce assurerait la paix, la prospérité et la démocratie. Aujourd'hui, l'urgence climatique nous force à penser autrement, parce que c'est bien le libre-échange qui est à l'origine des problèmes écologiques qui sont devant nous. Quel est le sens alors de faire avec ce traité se croiser dans l'Atlantique des produits de qualité AOC, avec du saumon nourri aux OGM et de la viande bovine nourrie aux farines animales? Avons-nous mesuré les conséquences sur nos modèles de production agricole dont la qualité en est le produit et nos territoires le support? Finissons-en avec les arguments d'autorité. D'aucuns n'ont-ils pas juré hier que l'euro ferait converger les économies? Il les a fait diverger. Que la Chine se démocratiserait après son entrée dans l'OMC? Je vous laisse apprécier. À l'inverse,
est-ce que la convergence est totale? Clairement pas, mais est-ce que l'euro a fait diverger les économies?
Une bataille culturelle à mener. Il est fondamental de proposer une autre vision du monde, une vision écologique désirable de l'avenir, de projeter un imaginaire tangible, à la fois politique, économique, mais également agricole, énergétique. Pourquoi ces récits d'un genre nouveau ne pourraient-ils pas modifier nos représentations, contaminer positivement les esprits, et s'ils sont largement partagés, se traduire dans nos traités et nos lois? Monsieur le Premier ministre, la France est-elle prête à conjurer le mauvais sort que nous réserve le CETA et plus encore demain le Mercosur? Je vous remercie.
Petite pause s'il te plaît, très vite la régie. Merci. Question de Jean-Michel Clément. Jean-Michel Clément, il est membre du groupe Liberté et Territoire et membre du parti Place Publique. Il avait voté contre la loi Asile et Immigration, ce qui avait provoqué son éjection, telle une fusée, du groupe La République En Marche en avril 2018. Le groupe Liberté et Territoire, c'est quoi? C'est un patchwork un peu disparate de députés plus ou moins centriste, on va dire. Il y a quelques déçus et ou exclus de La République En Marche notamment, mais pas que. Et voilà, et sa question porte sur les traités commerciaux, notamment le CETA, qui est le commerce, le Canada-Europe Trade Agreement, quoi, en gros, l'accord commercial avec le Mercosur, dont on a beaucoup entendu parler ces derniers jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a deux ou trois séances de QAG, ça a fait quasiment l'intégralité de la séance sur cet accord avec le Mercosur, et ces traités commerciaux qui sont... alors, je rappelle que dans la théorie économique, en général, on dit que quand deux agents commercent, les deux y gagnent, et ça, c'est... un truc qui se constate de manière assez vraie. Par contre, ça ne veut pas dire que les membres, que les habitants des deux pays qui commercent sont tous gagnants. Il peut y avoir des perdants et des gagnants au sein de chacune des populations des pays. Et en l'occurrence, ce qui est beaucoup pointé dans ces accords commerciaux, notamment CETA, Mercosur, etc., mais aussi avec le Japon, avec les États-Unis, etc., c'est la présence, par exemple, des tribunaux arbitraux. Les tribunaux arbitraux, c'est quoi ? C'est des trucs qui disent que s'il y a un désaccord entre une entreprise et un pays, ce sera un tribunal arbitral, c'est-à-dire un tribunal... pas la justice classique, on va dire, une espèce de justice privée, en tout cas c'est comme ça que les opposants le désignent, qui réglera les différences, qui peut amener à des problèmes. Par exemple, pour vous donner un exemple, l'affaire Tapie, ça avait été réglé par un tribunal arbitral, histoire de vous donner un peu une petite idée du genre de souci que ça peut créer. Voilà, on reprend, on écoute la réponse de, je ne sais pas, peut-être François
Monsieur
de Rugy.
Monsieur le député, la parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian.
Non, Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères.
Des Affaires étrangères.
Monsieur le député Jean-Michel Clément, vous anticipez un débat qui aura lieu dans cette Assemblée le 17 juillet prochain, débat portant sur la ratification du CETA.
Alors je rappelle que les débats sur la ratification des...
Vous savez...
Des accords internationaux, on ne peut pas modifier un accord international au Parlement.
Accompagné d'un... dispositif d'études d'impact rigoureuse,
pour voter pour ou contre,
indépendante, que nous avons voulu ensemble et qui donne le contenu et
oui, on peut le rejeter, qu'il y a
derrière cet accord.
Enfin, et d'abord, je vois mal la majorité rejeter un.
Monsieur le député, parce que j'imagine que vous l'avez lu, cette étude d'impact montre que la mise en œuvre provisoire du CETA a été positive pour notre balance commerciale. Cette étude d'impact montre aussi qu'aucune des cinq filières agricoles sensibles identifiées, que ce soit le bœuf, le porc, la volaille, le sucre ou l'éthanol, n'a subi de conséquences négatives. Et cela montre aussi que...
Enfin, je dis, on peut pas le modifier. Si formellement, on peut le modifier, mais c'est juste que si vous le modifiez, vous êtes sûr qu'il sera...
avec les propos que vous venez de tenir sur les produits importés par l'Union européenne.
Si vous voulez,
dans
c'est,
le cadre
c'est
de
compliqué de négocier entre deux chambres, entre le Parlement européen et le entre le Parlement français, pardon, et le Parlement canadien, par exemple.
Par la Commission,
c'est pour ça qu'en général, les accords internationaux ne sont pas.
Et je voudrais vous redire que le CETA sert déjà de support à un renforcement de notre coopération avec le Canada en matière de lutte contre le changement climatique. Je n'en veux pour preuve que le partenariat bilatéral qui a été conclu entre les deux ministres de l'Environnement en avril dernier. Donc le CETA, c'est un bon accord qui sera soumis à votre discussion et qui permettra une relation sereine et saine avec le Canada, qui est par ailleurs, monsieur le député, notre partenaire pour la refondation du multilatéralisme.
Merci, monsieur le ministre. Madame Panot, s'il vous plaît.
Ah, Mathilde Panot.
Un peu plus bas.
De la France Insoumise.
La parole
qui
est à madame Christine Pires-Beaune.
N'a pas l'air satisfaite. Christine Pires-Beaune pour le Parti Socialiste.
Mon collègue Julien Borowczyk, député de la Loire. De nombreux EHPAD publics hospitaliers hors d'âge nécessitent de lourds travaux, voire une reconstruction complète afin d'accueillir d'une part dignement nos aînés, mais aussi d'offrir au personnel des conditions de travail acceptables. C'est par exemple le cas de l'EHPAD de Montbrison dans la Loire ou de Rion dans le Puy-de-Dôme. Bien que bénéficiaires, ces EHPAD sont adossés à des hôpitaux, eux en difficulté financière, dans la capacité d'emprunter. Aussi, parfois, les ARS et les départements, conjointement, envisagent la cession pure et simple de ces EHPAD à des opérateurs privés. Ce type de scénario de cession au privé pose des problèmes juridiques complexes et notamment des questions liées à la domanialité publique. Pose aussi la question du reste à charge et donc de l'accessibilité financière pour les résidents et leurs familles. Pose la question des taux d'encadrement, notamment de personnel soignant en nombre, on le sait, insuffisant aujourd'hui. L'enquête de l'adresse démontre d'ailleurs qu'ils sont encore plus faibles dans le privé. Enfin, un tel transfert crée une insécurité importante pour le personnel inquiet pour leur statut. Cette précipitation, monsieur le Premier ministre, est particulièrement inquiétante alors que le rapport Libault formule de très intéressantes propositions. Cette hâte est d'autant moins compréhensible alors que vous-même, dans votre discours de politique générale, avez dit la ministre de la Santé présentera d'ici la fin de l'année un projet de loi qui définira une stratégie et la programmation des moyens nécessaires pour prendre en charge la dépendance. Vous avez même ajouté, dès le prochain budget, nous enclencherons une première étape avec des mesures favorisant le maintien à domicile et des investissements dans les EHPAD publics. C'est simple, au vu de cette situation, Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons tout simplement un moratoire. Stoppez tout projet de cession d'activité d'EHPAD public aux opérateurs privés. D'ici la discussion de la future loi, ne bradez pas nos services publics, confortez-les, c'est la demande des familles, c'est la demande des personnels. Merci.
Merci.
Alors, beaucoup de choses à dire. Elle a mentionné l'adresse. L'adresse, c'est la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques. Elle parle des EHPAD. Les EHPAD, c'est les établissements hospitaliers, PAD, je ne sais plus ce que c'est, mais en gros, c'est les maisons de retraite qui sont conventionnées, qui ont un accord avec l'État. Elle a, j'ai oublié, il y a un troisième truc que je voulais aborder. Elle a demandé un moratoire. Un moratoire, c'est quoi? C'est une pause. Autrement dit, arrêter. On touche plus à rien jusqu'à ce qu'on ait pu en discuter au Parlement. Et enfin, qui est-elle? Christine Pires-Beaune. Christine Pires-Beaune, elle est députée socialiste. Elle a été directrice générale des services de la ville de Riom en 2010, vice-présidente de la délégation collectivité territoriale et à la décentralisation. Et donc, les questions de maison de retraite, c'est le truc qu'elle connaît. On reprend. Merci. Personnes âgées dépendantes, merci.
Madame la députée Pires-Beaune, merci de remettre la lumière sur la situation des EHPAD. C'est un travail qui est en cours, vous le savez. Suite à la mission de Monsieur Libault, nous sommes en train de travailler à un projet de loi qui vise à rassurer les Français sur notre capacité d'accueillir nos aînés. Je le rappelle, les chiffres sont éloquents. Il y aura plus de 5 millions de personnes de plus de 85 ans à l'horizon 2050 et nous aurons doublé le nombre de personnes âgées dépendantes.
Arrêtez
nous
de vieillir,
devons donc
putain.
Revoir notre modèle, à la fois notre modèle de prise en charge. Nous devons augmenter le nombre de soignants auprès des aînés. Nous devons mieux valoriser les métiers du grand âge. Et j'ai installé cette semaine la mission de Madame Myriam El Khomri pour travailler sur les métiers du grand âge et qu'elle me fasse des propositions concrètes pour l'intégrer dans la loi qui sera présentée à la fin de l'année. Nous avons d'ores et déjà acté le discours du Premier ministre lors de son discours.
Il génère un peu de brouhaha quand même.
Le général l'a évoqué. Nous avons acté des financements qui seront présentés dans la loi de financement de la sécurité sociale de cet automne pour faire une première étape en faveur du maintien à domicile.
Le PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on rappelle, c'est le budget.
Aujourd'hui pour rendre privé les
de la sécurité sociale. C'est le papelard qui établit quelles sont toutes les ressources de la sécurité sociale. Ministère.
Nous aurons peut-être l'occasion de faire le point sur l'EHPAD dont vous me parlez. En tous les cas, l'objectif du gouvernement est clair, c'est revaloriser ces métiers, faire en sorte que les conditions d'accueil de nos aînés soient sereine, soit apaisée, donne envie d'habiter dans des nouveaux lieux de vie et que ces lieux de vie soient des plateformes de services pour permettre le maintien à domicile. Nous y travaillons. Ce projet de loi sera présenté à la fin de l'année. Il aurait fait l'objet d'une très large concertation, mais vous pouvez compter sur notre entier engagement sur ce sujet. Je vous remercie.
Elle a quand même pas mal évité la question, Agnès Buzyn. Marine est députée. Il y a plusieurs Marines, Théo le Zombie. Mais merci. Celle à laquelle tu penses, j'imagine, est effectivement députée.
Tout d'abord de m'associer.
Mais elle est non inscrite, donc du coup, elle a
à notre
peu de temps de parole.
Patricia Galerno, en y associant mes collègues Martine Le Guy-Ballois et Stéphane Buchou. Voisins de circonscription dans le département de la Vendée, nous avions fait nos premiers pas ensemble à l'Assemblée nationale il y a tout juste 2 ans. Nous sommes bouleversés par sa disparition et tenons à présenter nos condoléances à sa famille et à ses proches. Ma question s'adresse à Monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, les premiers résultats du baccalauréat ont été publiés vendredi 5 juillet dernier à l'issue du premier groupe d'épreuves. J'en profite pour féliciter tous les bacheliers et leur souhaite toute la réussite pour leur avenir.
Bravo à vous. Si vous venez d'avoir eu le bac, eh bien sachez que moi je ne l'ai pas, comme le montre mon français.
Cette session
si vous venez d'avoir le bac, bravo à vous.
Toutefois connu une situation inédite. D'abord, pendant les écrits, avec des appels à la grève de la surveillance qui ont amené les académies à prendre des dispositions spécifiques pour assurer le bon déroulement des épreuves. À la suite de ces écrits, certains professeurs ont retiré les copies à corriger dans leurs différents centres d'examen, sachant pertinemment qu'ils ne les remettraient pas en temps et en heure. Au total, ce sont 40 000 copies sur plus de 4 millions que produit l'examen qui n'ont pas été rendues jeudi soir. Vous n'avez eu d'autre solution que d'appliquer la procédure de secours en cas de perte de copie et confirmer qu'en cas de note manquante, celle-ci serait remplacée à titre provisoire, avez-vous précisé, par la moyenne obtenue d'élèves sur l'année de classe de terminale dans la matière concernée. Hier, enfin, L'ensemble des copies ont été remis vers les rectorats et les centres de délibération. Sur ces 1500 centres, une centaine d'entre eux ont été perturbés à des degrés divers. La passation du baccalauréat a ainsi connu une situation déplorable pour un de nos rares rituels appréciés des familles et des jeunes. Monsieur le ministre,
les jeunes apprécient
le
bac, vous croyez ?
Va maintenant réagir face à cette situation.
Douter, ça.
Pensez-vous que le nouveau baccalauréat 2000...
Merci, cher collègue. La parole est à
pensez-vous que le nouveau baccalauréat 2000... Voilà la question de Pierre Henriet, qui a épuisé ses deux minutes de temps de parole. Pierre Henriet, qui est, il se trouve, professeur
Merci,
de mathématiques,
le membre de la commission des affaires culturelles et
de l'éducation, membre du Conseil
Pierre
national
Henriet,
de l'enseignement supérieur et de la recherche artistique et culturelle.
Crise, nous avons connu trois crises au mois de juin. La première, vous y avez fait référence, c'est la crise de la surveillance des examens. Il y a eu une sorte de menace sur le baccalauréat. Et j'ai dû me poser comme le garant du bon déroulement du service public. Et vous l'aurez remarqué...
Heureusement que t'es là, Jean-Michel.
La session s'est organisée.
Qu'est-ce qu'on aurait fait sans toi ?
Et nous devons pour cela rendre hommage de nouveau à nos chefs d'établissement, l'immense majorité des professeurs et des personnels de l'éducation nationale qui se sont mobilisés.
Super Blanquer.
La deuxième crise, elle a été climatique.
Super
elle a été pour
Blanquer.
Le brevet. Et elle nous a obligés de négliger de deux jours le brevet. Eh bien, nous avons pu le faire en bon ordre et donner les résultats du brevet à temps. Et là encore, nous le devons au professionnalisme incroyable de l'immense majorité des personnels de l'éducation nationale. Ils ont été réactifs, ils ont montré un sens du service du public extraordinaire. Et je suis heureux de pouvoir dire ma fierté de ces personnels. Et je leur rends hommage aujourd'hui. Et ces mêmes qualités, ils en ont fait preuve lors de la troisième crise. Celles que certains qui n'avaient pas réussi à déclencher la première crise ont cherché à déclencher une deuxième fois. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait en faisant quelque chose que vous avez eu raison de qualifier de sacrilège, finalement, car c'est une institution de la République qui a été attaquée. Et nous avons su réagir dans des temps extrêmement rapides, de sorte que nous avons pu conserver...
Donc en fait, le bac, c'est Mélenchon, quoi.
...l'égalité entre les candidats en garantissant que tout le monde ait les résultats en temps et en heure, ce qui a permis d'éviter les problèmes en matière d'inscription dans l'enseignement supérieur ou de passage de l'oral. Et nous avons pu finalement avoir, hier soir... Eh bien, définitivement, toutes les notes, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis 10h du matin, tous les candidats au bac ont pu avoir leurs notes définitives.
Et positives, on l'espère.
C'est évidemment le résultat le meilleur possible par rapport à la crise que certains ultra-minoritaires ont voulu déclencher. Moi, je veux
Merci,
rendre
Monsieur
hommage à la
ministre.
France constructive qui a permis que cela se fasse quand même.
Merci la France constructive. Peut-être que si tu avais reçu les syndicats pour discuter, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de grève comme cela, mon cher Jean-Michel.
Ministre de l'Éducation nationale, depuis 18 mois, professeurs, parents et élèves sont mobilisés face à votre contre-réforme du bac. Depuis 18 mois, dans le respect des procédures, les syndicats et les instances comme le Conseil supérieur.
Là encore deux questions qui suivent, vous voyez.
Votre réforme du bac. Vous répétez à souhait que votre
salle, autre ambiance.
Vous démontrez tout le contraire. Nous-mêmes, parlementaires, n'avons pas eu l'occasion d'en discuter. C'est en conséquence, et en conséquence seulement, que des professeurs ont choisi d'exercer leur droit constitutionnel à la grève pendant les épreuves du baccalauréat. Rappelons que ces professeurs ne se battent nullement pour eux-mêmes, mais pour l'intérêt général.
Droit constitutionnel à la grève, non, la grève n'est pas dans la Constitution. Le droit syndical, oui, mais la grève, non.
Une multitude de bacs locaux est en rupture avec
l'égalité
républicaine. Évidemment, personne ne peut se satisfaire d'une rétention de notes d'un examen. Pas même les professeurs grévistes, qui, faut-il le rappeler, ont préparé avec soin leurs élèves à cet examen. C'est votre jusqu'au bout.
Vous avez vu, il y a Jean-Luc qui veut...
Hey,
on ne voit pas derrière l'overlay.
L'action aurait décalé d'un ou deux jours l'annonce des résultats.
Merci, Captain Mousse, pour ton quatrième mois de soutien.
Vous avez foncé tête baissée et vous avez commis une lourde faute politique en donnant des consignes absurdes au sein de votre ministère. Depuis trois jours, les témoignages affluent de professeurs, de membres de jury grévistes et non grévistes, de proviseurs atterrés par les consignes qu'ils ont reçues. Avec votre action, il n'y a donc certes pas eu de retard dans l'annonce des résultats. Mais quels résultats avec le bricolage que vous avez orchestré ? Est-ce bien de la République française dont on parle ou est-ce d'une République bananière dont il est question ? Monsieur le ministre, la rétention de quelques copies
pas très sympa pour les
serait
bananière,
être qualifiée
ça.
De prise d'otage, comme l'a fait remarquer un enseignant gréviste rescapé des attentats du Bataclan. Cette comparaison est indécente. Monsieur le ministre,
vous avez vu, elle regarde
sur quel fondement
temps.
Juridique vous êtes-vous basé pour assumer de telles décisions en rupture complète avec les valeurs républicaines défendues par les professeurs grévistes ?
quel fondement juridique pour merci, demander, comme si on a pu le voir dans une circulaire, je crois, qui a circulé, comme son nom l'indique, dans laquelle Jean-Michel Blanquer disait aux professeurs, au jury qui n'avait pas toutes les notes, d'attribuer la note la plus probable, je ne sais plus comment c'était formulé, mais en gros la note la plus probable vu les autres notes de l'étudiant. Jean-Michel Blanquer qui a droit à une standing ovation sa majorité.
Merci, monsieur le président.
Ne soyez pas jaloux, monsieur le ministre, qu'on applaudit. Ne criez pas.
Et donc, quelle base légale pour faire ça?
Merci, c'est la question que lui demande Bénédicte Corinne,
qui était prof de SVT au collège et membre du syndicat national des enseignants de second degré.
Votre question me permet de rétablir quelques vérités. La première, c'est que la réforme du baccalauréat n'a pas été conduite tête baissée. Sa première annonce, c'est au fond dans les engagements présidentiels dès 2017. C'est ensuite le Premier ministre, ici même, dans sa déclaration de politique générale du mois de juin 2017. C'est la consultation menée par Monsieur Pierre Mathiot pendant des mois, avec 40 000 lycéens qui ont participé. C'est évidemment la concertation que j'ai menée ensuite avec l'ensemble des organisations syndicales, que j'ai reçues plusieurs fois. Tout ceci a duré plus de 6 mois, même 7 mois. Nous avons ensuite présenté la réforme du baccalauréat. On s'en souvient,
pas très long,
c'était d'ailleurs
hein,
dans une émission télévisée que tous les Français pouvaient voir. C'était l'émission politique du début de l'année 2017. Il n'y a donc jamais eu aucun secret ou aucune.
Monsieur Blanquer, il y a eu de l'eau en son nom, rien que ça. Non,
puis nous l'avons mis en œuvre. Il se trouve que
chaque ministre a sa grosse loi. Et en l'occurrence, c'est La République En Marche a mis en place
une réforme qui est une réforme en profondeur. Cela a coïncidé
pratique
un peu avec la fin de l'année civile dernière.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Hein,
dans un contexte où certains ont cherché à profiter.
Et les lois ne portent plus les noms des ministres.
Mais ce qui est certain. Ce qui est certain, c'est
nouvelle
que cette réforme, elle est faite
donc la loi
pour les élèves.
La loi pour,
elle est profonde, elle est pour les élèves. Elle est pour les élèves parce
pratique,
qu'ils
on peut l'apprécier ou pas, certains diront, c'est bien,
jours,
ça...
Dans quelques jours, vous aurez les chiffres...
On retient les ministres de faire des lois juste pour avoir leur nom sur une loi.
Interrogez les élèves de seconde de cette année.
Oui, mais du coup, ils sont
demandez-leur s'ils n'ont pas le sentiment
on réalise pas qui porte quelle loi,
nouvelle,
et du coup, on les tient pas pour
responsables. Et vous aurez la réponse à l'ensemble de vos questions. C'est une réforme pour la liberté... Pour la liberté de choix, pour l'approfondissement des disciplines, mais aussi pour plus d'égalité, parce qu'en réalité, votre conservatisme, c'est cela qui conserve les inégalités.
Il n'a pas du tout répondu à la question, Jean-Michel Blanquer. La question était quelle base légale pour prendre les mesures que vous avez prises, et il a complètement évité en défendant sa réforme. C'est bien joué, Jean-Michel. C'est pas très fair play, mais c'est bien joué.
La question s'adresse à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé. Notre système de santé est dans un état critique et bien des personnels sont au bord du burn-out. Je veux rendre hommage à tous ces professionnels, médecins, infirmiers, aides-soignants, urgentistes, ces femmes et ces hommes qui permettent à la France de disposer d'un système de santé des plus performants. Madame la ministre, parmi les difficultés actuelles, je souhaiterais vous interroger sur la démographie médicale et la permanence de soins dans nos déserts médicaux ruraux et parfois urbains. Mieux que des mesures coercitives, d'autres voies fondées sur le volontariat et le pragmatisme sont possibles. J'en veux pour exemple une démarche initiée sur ma circonscription dans le Val-de-Saône. Un travail collectif mettant tout le monde autour de la table, des élus locaux, l'Ordre des médecins, l'ARS et l'assurance maladie, a permis de faire émerger des solutions innovantes comme l'ouverture d'un cabinet éphémère adossé à un établissement médico-social qui est assuré par des médecins salariés nouvellement retraités, bien sûr, dans l'attente de l'installation programmée de jeunes médecins. Mais nous nous trouvons face à une série de freins réglementaires et administratifs, de l'autorisation de médecine générale pour l'établissement support, à la prise en charge des frais de déplacement et de couverture assurantielle des médecins salariés. Madame la ministre, comment dans nos territoires et au plus près des habitants, l'action de l'État pourrait être davantage facilitatrice, guidée par le bon sens et permettre à la fois l'innovation, l'expérimentation et la mise en œuvre de solutions efficaces contre les déserts médicaux. Je vous remercie.
Comment lutter contre les déserts médicaux? Comment assurer la permanence des soins? C'est la question qui est posée par Rémi Delatte. Rémi Delatte qui était...
De la santé.
Qui est, ministre qui est député de Dijon.
C'est
chez Sylvain, c'est le député pour lequel Sylvain...
D'abord, merci
ne veut
pour
pas donner
votre
son vote.
Question et merci de mettre en exergue une initiative
de là, qui est vice-président du groupe d'études sur la fin de vie, notamment,
avec ce cabinet
et membre de la mission
d'évaluation
et de contrôle.
C'est une initiative qui a déjà permis de faire émerger des installations dans d'autres territoires. Donc face à la désertification médicale, il nous faut innover et il nous faut permettre aux acteurs du territoire de trouver la solution qui correspond le mieux à leurs attentes et aux besoins de la population. Tous les projets doivent venir du territoire, nous devons les aider à exercer cette liberté et tout doit être fait pour redonner confiance aux professionnels de santé qui s'engagent dans les territoires les plus en difficulté. Pour redonner confiance, cela suppose d'écouter, d'échanger, de confronter les points de vue. C'est ce que font aujourd'hui les ARS, les CEPAM, l'Ordre des médecins et les professionnels eux-mêmes, bien entendu, qu'ils soient privés ou publics. Nous devons favoriser les communautés professionnelles territoriales de santé avec un bon maillage territorial. Et dans votre circonscription, 8 maisons de santé pluriprofessionnelles sont actuellement en fonctionnement. 3 autres devraient entrer en fonctionnement en 2020. Il y a donc une très bonne dynamique en Côte d'Or. Le déploiement de la télémédecine également doit être favorisé. Cela permet...
C'est quand même marrant que ce soit les Républicains qui posent cette question, eux qui œuvrent depuis si longtemps à la réduction des effectifs hospitaliers.
Et cette télémédecine peut être portée à la fois...
Si je veux être mesquin, je vous dirais que c'est plus facile de faire voter les morts que les retraités.
Ainsi, dans votre circonscription, 10 sites participent au programme de télécardiologie et 21 sites au programme de télédermatologie. Au total, ce sont 40 sites de télémédecine installés en Côte d'Or. Mais nous avons besoin des élus, comme vous, qui doivent nous faire remonter les difficultés. Nous sommes là pour trouver des solutions. En aucun cas, des tracasseries administratives ne peuvent briser l'énergie des professionnels. Nous sommes là pour les accompagner. Vous pouvez compter sur notre entier engagement. Je vous remercie.
Merci, Madame la Ministre.
Alors non, c'est pas horrible, votre serviteur, c'est Tibéri. C'est pas la même chose. Il y a un... Laetitia Avia, dont la proposition de loi va être votée en première lecture juste après l'Assemblée nationale.
Ma question s'adresse à M. Cédric O, secrétaire d'État en charge du numérique. Chaque jour, nos concitoyens sont insultés impunément pour ce qu'ils sont dans leur être, dans leur chair. Chaque jour, on porte atteinte à la dignité humaine sur Internet. Chaque jour, la liberté d'expression est mise à mal parce que quelqu'un quitte les réseaux sociaux ou cesse d'y partager ses opinions de peur d'être la cible d'un torrent de haine en raison de sa prétendue race.
Elle va se touchoupaïser.
De son sexe,
ça,
de son orientation sexuelle ou encore de son handicap. La cyberhaine n'est qu'une première étape dans le continuum de la violence raciste, antisémite, homophobe. Nous ne pouvons plus détourner le regard et laisser faire ceux qui dévoient nos droits fondamentaux pour transformer Internet en un enfer permanent.
Laetitia Avia était victime des bots Macron sur Twitter.
Ne doit plus l'être sur Internet. Nous devons tous prendre nos responsabilités. Les plateformes, en mettant en œuvre les moyens nécessaires pour anéantir l'exposition de ces propos. Les pouvoirs publics, en poursuivant et condamnant ces délinquants, grâce au nouveau parquet spécialisé dont je salue la création. La société civile, à travers les actions de sensibilisation, de prévention, alimentées par le nouvel observatoire de la haine en ligne. Tels sont les objectifs de la proposition de loi que nous voterons dans quelques minutes. Si nous avons mis tant de détermination dans ce combat, c'est parce que nous pensons que nous pouvons réellement changer le cours des choses et ne pas céder au fatalisme, que nous nous devons d'assurer la sécurité et la protection des internautes, et en particulier des plus faibles, que nous avons une obligation de résultat en la matière. Alors certes, nous n'allons
obligation
pas
résultat, eh ben, tu vises haut, ma chère Laetitia.
De la détestation de l'autre, trouveront toujours
l'obligation de résultat, ça veut dire
lois,
après la loi, il reste zéro haine sur Internet.
C'est un combat exigeant et de longue haleine qui s'engage, mais ma question est simple. Devions-nous pour autant abandonner nos valeurs et renoncer? Nous ne le croyons pas, et c'est pourquoi ce texte est aux antipodes du renoncement.
Alors, c'est quoi la question? Parce que je n'ai pas cerné où était le point d'interrogation dans la phrase. Laetitia Avia, qui porte donc la proposition de loi qui va être votée juste après cette séance de questions d'actualité au gouvernement, qui s'auto-choupaïse, comme tu l'as dit, l'édicacité, j'ai bien aimé.
Tiens, Madame la députée, à vous remercier pour votre question, mais plus largement pour le combat et l'engagement que vous avez fourni pour mettre ce sujet à l'agenda politique et médiatique, mais plus largement pour mener à bien la proposition de loi que j'espère nous aurons l'occasion de voter dans les minutes qui viennent. Je tiens d'ailleurs, mesdames et messieurs les députés, à remercier l'ensemble des députés de cette Assemblée qui se sont engagés pour enrichir et affermir ce texte et montrer que la représentation nationale, c'est sur des sujets d'intérêt général, se rassembler.
Max Lamennas qui dit ça va être vachement chia.
Alors, vous l'avez dit, madame la députée,
sans
le sujet est un problème quasiment de santé publique. Un problème de santé publique parce que chacun d'entre nous, mais aussi chaque Français, a connu, a été témoin, a vu ce problème de haine en ligne et ce problème de cyberharcèlement jusqu'à parfois des dédoûtements particulièrement tragiques. Je pense à la jeune fille qui a mis fin à ses jours il y a quelques
semaines. Quel meilleur réseau.
Et nous devons faire tout pour mettre fin à ces dérives. Cela veut dire punir enfin les auteurs de haine en ligne. C'est ce qu'a proposé Nekel Belloubet avec une proposition de modifier
profondément
notre processus judiciaire pour qu'il soit efficace. C'est responsabiliser les réseaux sociaux pour qu'ils mettent en place des systèmes de modération à la hauteur de l'enjeu. Et c'est enfin faire en sorte de sensibiliser l'ensemble des Français, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, pour faire de ce sujet de mobilisation une mobilisation politique et médiatique nationale pour mettre un coup d'arrêt à la propagation de la haine en ligne. Alors, nous avançons sur ce sujet, Madame la députée, avec une préoccupation. Tenir la ligne de crête entre liberté d'expression et protection des Français. Et cette ligne de crête, je crois que nous avons réussi ensemble avec la représentation nationale à la trouver.
Quand la majorité nous parle de haine sur Internet, c'est toujours l'extrême droite pour une raison
qui nous
obscure.
Alors moi, j'ai une petite hypothèse. Une obligation de résultat, car être capable de protéger les Français en ligne comme hors ligne, c'est la mission première de l'État. Je vous remercie.
Merci, monsieur le ministre.
On en parle des militants de la République en marche sur Twitter. Effectivement, il faudra en parler, sans mieux. Ce serait pas mal.
Merci, monsieur le président.
Je suis pas sûr que...
Ma question s'adresse à madame la garde des Sceaux. 75 femmes ont été tuées par leurs compagnons depuis le 1er janvier. Deux d'entre elles vivaient à Saint-Denis, dans ma circonscription. Si le Grenelle des violences conjugales annoncé pour la rentrée pourra être utile, les féminicides, en revanche, ne connaissent pas de trêve. Il y a donc urgence à agir maintenant. Pour cela, des lois existent. 9 ont été votées depuis 2010, une par an. Or, elles ne sont pas ou peu appliquées et donc inopérantes, faute de moyens.
Eh oui, sans thune, c'est compliqué.
La plus grande des empathies,
les intentions, c'est bien.
La meilleure
des
communications n'endigueront pas ce fléau sans mesures concrètes et financées. L'Espagne l'a fait. Mais ici, en France, nous y consacrons 0,0066% du budget dédié. Et celui de la justice est parmi les plus faibles de l'Union européenne. Madame la ministre, la protection judiciaire et policière des victimes est une impérieuse nécessité. Aucune d'entre elles, aucune des victimes qui franchit les portes d'un commissariat ou d'un tribunal ne doit en repartir la peur au ventre et au péril de sa vie. Mais comment pourrait-il en être autrement quand les commissariats sont en sous-effectif et que, par exemple, faute d'officier de police judiciaire, ce qui aurait dû être une plainte devient une main courante ? Comment pourrait-il en être autrement quand les juridictions...
On rappelle qu'une main courante, ça ne lance pas d'action. Une main courante, ça...
Les délais de prise de décision sont incompatibles avec l'urgence.
Là où une plainte
peut démarrer
une action
en justice. Comment, enfin, pourrait-il en être autrement quand les structures d'hébergement sont saturées du 1er janvier au 31 décembre, empêchant de fait la mise à l'abri immédiate de ces femmes, souvent avec enfants. Alors ma question sera simple. Madame la ministre, que comptez-vous mettre en place avec vos collègues du gouvernement pour que dès aujourd'hui et sans attendre le Grenelle, nous mettions un terme à cette série macabre.
Merci.
Effectivement, Stéphane Peu qui rappelle que, en effet, si le
garde des Sceaux, ministre de la Justice,
le Grenelle
Merci,
contre les féminicides peut arriver en novembre, les féminicides,
Peu,
eux,
ne raison, une
connaissent
loi
pas de moratoire.
Pas c'est souvent une condition de l'action.
Et il y aura des morts d'ici à novembre.
La suppose d'aller au-delà même du texte. La concrétisation de l'action, ça suppose bien entendu des moyens.
Et donc,
vous
faut faire des choses d'ici là.
Ce qui s'attache à la justice, vous le savez, la loi de programmation que vous avez adoptée met en place une augmentation du budget de près de 25%
Pourquoi il y a autant de questions sur la protection des femmes aujourd'hui particulièrement ? Parce que Marlène Schiappa a annoncé le Grenelle
contre
les féminicides
faites aux femmes. Mais au-delà même des moyens, monsieur le député, qui effectivement me verront, vous le savez, accroître le nombre de juges, c'est déjà une réalité au-delà des moyens, il faut changer les pratiques, changer les mentalités. Monsieur le député, c'est mon obsession, réellement. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je m'y engage chaque jour à la chancellerie, faire évoluer les pratiques, faire évoluer les mentalités. Pour le sujet qui nous concerne vraiment au point le plus haut avec mes collègues du gouvernement sous la responsabilité de monsieur le Premier ministre, nous avons des textes. Je pense à l'ordonnance pénale, l'ordonnance de protection. Elle existe depuis 2010. De quoi nous apercevons-nous ? C'est que les juges civils l'utilisent certes, mais pas à un niveau assez élevé. En France, 3 000, en Espagne, 10 000. Nous devons, et j'ai pris une circulaire à l'adresse des procureurs et des procureurs généraux pour leur demander d'inciter à les juges et même eux-mêmes à utiliser davantage cette ordonnance. Nous disposons du téléphone grave danger, même chose, nous ne l'utilisons pas assez. Il y a un point toutefois sur lequel je vais avoir besoin d'une accroche législative supplémentaire, c'est le bracelet anti-rapprochement dont on sait l'efficacité, dont on a pu la constater en Espagne. Votre collègue, le député Guillaume Vuilté, est particulièrement attentif à ces sujets et dès cet automne, nous aurons, je le souhaite, cette accroche législative. Voilà, monsieur le député, nous sommes ensemble, avec ma collègue Marlène Schiappa et l'ensemble du gouvernement, totalement mobilisés sur ce sujet, je puis vous l'assurer.
Merci, madame la ministre. La parole est à madame Marie-Pierre Rixin.
Merci, monsieur le président. Ma question s'adresse à madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de
l'égalité entre les chiffres, des hommes
et de la lutte contre les discriminations. J'y associe l'ensemble de mes collègues de la délégation aux droits des femmes. Le 12 juillet 1999 était institué, avec le soutien de l'ensemble des groupes politiques, des délégations parlementaires aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes afin de mesurer l'impact de chaque texte de loi à l'aune des droits des femmes. Telle est la mission de notre délégation, au sein de laquelle nous travaillons ensemble, dépassant ainsi nos divergences partisanes. À ce titre, je salue ici les avancées législatives obtenues par nos prédécesseurs, l'extension de l'accès à l'IVG, sous l'impulsion de Madame Linière Cassou, l'égalité professionnelle favorisée par Madame Marie-Josée Merman, et la lutte contre la prostitution initiée par Catherine Coutel. Aujourd'hui, 20 ans après, et alors que nous renouvelons l'engagement du Parlement dans la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes, la délégation est pleinement mobilisée pour l'amélioration de l'accès à l'IVG pour toutes les femmes, et ce, sur l'ensemble du territoire, la disparition des aberrantes inégalités salariales et professionnelles, l'exigence de parité à tous les échelons de la décision publique, et enfin la lutte contre les violences tragiques faites aux femmes. Des drames indicibles, qui incarne la négation de l'égalité entre les femmes et les hommes, que nous ne tolérons plus et contre lesquels nous nous battrons à vos côtés, Madame la Ministre. Retenons pour finir la leçon de Simone Veil. La façon dont évoluera la condition féminine aura des répercussions fondamentales sur l'avenir et l'équilibre des femmes, mais également sur ceux de la société tout entière. Aussi, Madame la Ministre, comment le gouvernement entend-il imprimer l'urgence de l'égalité entre les femmes et les hommes dans chacun des pans de la société, afin que les joies de nos victoires ne soient plus diluées dans les larmes de nos défaites.
Merci, madame.
Salut, May. Bon, c'est une QSG ou bien une géante confiserie. Bon, on le sait, hein, les questions de la majorité, malheureusement, pas toutes. Parfois, il y en a des très intéressantes, mais c'est plus les exceptions que la règle.
Madame la présidente,
les questions de la majorité sont des questions
ou pas. Je voudrais souhaiter
des moments de communication un peu stériles, malheureusement.
20 ans et saluer le travail.
Et là, aujourd'hui, c'est la journée de Marlène Schiappa après ses annonces.
Toutes les mandatures pour l'égalité entre les femmes et les hommes.
Après ses annonces d'un Grenelle contre les féminicides.
Important et un aiguillon sur un certain nombre de sujets, comme vous l'êtes aujourd'hui.
Est-ce que c'est pas anticonstitutionnel de s'auto-féliciter, je veux dire, avec la séparation des pouvoirs, tout ça.
À l'IVG pour toutes les femmes.
Pourquoi ce serait anticonstitutionnel,
madame la présidente, comme le travail mené par la députée.
Et alors, faut faire gaffe avec
l'expression
séparation des pouvoirs. C'est pas tant séparation des pouvoirs qu'un équilibre des pouvoirs que décrivait Montesquieu, Locke et compagnie. Le rôle de chacun des pouvoirs étant d'arrêter les autres. Et non pas de complètement ignorer l'autre et de dire ah les autres pouvoirs n'existent pas.
Et la liste pourrait être très très longue. Preuve de cet engagement et de cette efficacité de la délégation aux droits des femmes dans le cadre.
Et d'ailleurs, d'une certaine manière, le
Conseil consultatif pour l'égalité femmes-hommes fait un panorama des meilleures lois.
Je vous la montre. Non, ils communiquent, c'est tout. Ils communiquent sur leur action.
Plusieurs de celles qui ont été sélectionnées proviennent.
Demander la parole pour faire cela, ça devrait être anticonstitutionnel. De toute façon, ils ont la parole. Ils ont la moitié des questions, c'est la majorité.
La gouvernance
donc,
des entreprises.
Ils ne demandent pas la parole, ils ont la moitié des
instaure du temps de l'extension du délit d'entrave à l'IVG sur le numérique qui provient de la précédente mandature.
J'ai l'impression que tout ce qui tourne autour du droit des femmes, du droit pour les femmes, est un super moyen de ne pas parler d'autres sujets beaucoup plus importants. Oui, c'est vrai que c'est que la moitié de la population, les femmes.
J'ai un groupe de travail qui a construit cette définition juridique.
L'équilibre de pouvoir, on va dire qu'il y en a un qui est passé à la trappe. Ah, ça, sur les équipes de la Constitution, effectivement, on peut en parler. parler en long, large, en travers, mais l'expression qui correspond mieux, c'est celle des Américains. Ils parlent de check and balances, qui montre bien que c'est vraiment un équilibre entre les pouvoirs et que les uns doivent chacun des pouvoirs doit pouvoir arrêter les autres.
De mes collègues qui sont engagés avec la délégation aux droits des femmes.
Je trouve plus approprié que l'équilibre des pouvoirs qu'on utilise en France.
Et à travers les parlementaires de la délégation aux droits des femmes, nous appelons tout le monde à contribuer via l'adresse mail grenelle@pm.gouv.fr comme Premier ministre, ce qui permettra à toutes les associations et tous les élus locaux de se rapprocher de vous et de nous pour que ce travail collectif et commun se poursuive.
Oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont tués par leurs femmes.
Madame Agnès,
comparé au nombre de femmes tuées par leurs hommes.
Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Roxana Maracineanu, ministre des Sports.
Dotation de la justice, 4 euros pour chaque 100 euros de dépenses publiques, source grandebat.fr.
La Coupe du monde féminine de la FIFA s'est terminée par la victoire de l'équipe des États-Unis.
À chaque 1000 euros.
Tout d'abord, un grand bravo de l'équipe de France.
C'est bien ce que disait.
Sans tout à fait avoir rempli son contrat sportif, a gagné le cœur des Français. De l'avis de tous les observateurs, cette compétition est une pleine réussite. En votre nom à tous, j'adresse nos félicitations à la Fédération française, à Brigitte Henriques, à Frédéric Jossinet, à tout le comité d'organisation, mais aussi un grand merci à tous les bénévoles des villes qui ont permis ce succès. Cette compétition est une réussite populaire et familiale, avec plus de 21 000 spectateurs par match en moyenne et un taux de remplissage des stades.
C'est pas l'apanage de la majorité en lice. Si c'est l'apanage de la majorité en lice, c'est juste que les majorités précédentes faisaient la même chose.
De téléspectateurs. À noter,
mais
un pic
par
de
définition, les oppositions ne peuvent pas, puisque les oppositions posent les questions à la majorité.
Un enthousiasme de la part de la jeunesse, qui représente 66% de part d'audience lors des matchs de l'équipe de France. Bravo à TF1 et à TMC d'avoir cru en cet événement il y a 4 ans en achetant les droits télé. Une réussite économique, touristique et d'image pour les villes organisatrices. Et c'est l'élu du Havre, ville qui a accueilli 7 matchs, qui vous le dit. Alors oui, nous pouvons le dire et en être fiers, la France a réussi sa Coupe du Monde. Mais maintenant, Madame la Ministre, il faut transformer l'essai, ou plutôt marquer le pénalty et réussir l'héritage. L'engouement des jeunes filles se traduira et se traduit déjà dans les chiffres d'inscription dans les clubs. Alors comment comptez-vous les accompagner pour accompagner ce développement sur les problématiques cruciales des équipements et notamment des vestiaires ? Comment comptez-vous inciter les clubs à adopter une posture constructive sur l'égalité salariale entre les joueuses et les joueurs ? Plus globalement, c'est le sport féminin qui sort grand vainqueur de cette compétition. Quelles mesures comptez-vous
les questions de l'opposition peuvent aussi être des exercices comme. C'est vrai, mais pas de la même manière.
Événements, elle vient encore de le prouver. Alors, Madame la Ministre, comment comptez-vous inscrire la France dans un schéma de dynamique et d'organisation de grands événements sportifs ?
Agnès Firmin-Lebaudeau, vice-présidente des comptes d'études sur les jeux vidéo, sur la sécurité et sur l'économie du sport, surtout, qui pose une question sur les retombées économiques de la Coupe féminine de football, retombées économiques et en même temps, pas seulement, puisqu'il y a aussi la participation des jeunes filles
au club de foot. Extraordinaire réussite de la Coupe du monde féminine.
Et on félicite d'ailleurs l'équipe des États-Unis.
Cette réussite vient couronner la stratégie que la France déploie en accueillant les grands événements sportifs.
Pour sa cinquième Coupe du monde, je crois.
Notre vision ne se limite pas à organiser les événements, mais à les penser dès l'origine comme un levier de rayonnement, d'attractivité économique et de développement de la pratique sportive. Les enjeux de l'accueil des grands événements sont nombreux. Ce sont des facteurs de retombées économiques majeures et nous présenterons avec la Fédération de football les résultats de l'impact économique de cette Coupe du Monde dans laquelle l'État a investi 6 millions d'euros. 6 millions d'euros que nous considérons comme un levier pour des retombées économiques pour les territoires. Un grand événement à la maison, retransmis en clair, c'est aussi le moyen de booster la pratique sportive. La Fédération française de football, avec 15 millions d'euros investis depuis des mois, pour garantir un accueil de qualité aux nouvelles licenciées EES à la rentrée 2019, a fait un travail d'anticipation exemplaire qui répondra aux demandes que vous avez citées, notamment celles de vestiaires, de terrains, d'éclairage supplémentaire, pour accueillir les jeunes filles qui se présenteront dans les clubs à la rentrée. Et plus spécifiquement, cet événement féminin a bien sûr servi à faire progresser les représentations. Le sentiment pour les femmes qu'on peut aussi leur faire la passe, au moins sur un terrain de football. Son enjeu principal, c'est bien celui de la structuration, la structuration des clubs. Il faut profiter de cet élan de la Coupe du Monde pour stimuler l'investissement dans les sections féminines. Et je proposerai à cet égard, dans les prochains jours, la création d'un label club féminin de haut niveau. La structuration du haut niveau vers un
meilleur... On est d'accord que la formulation, c'était particulier, non ?
Un système régulé et vertueux. Et je salue l'arrivée de nouveaux partenaires économiques qui concourent au développement de notre élite féminine. Structuration, enfin, pour faire plus de place au sport féminin dans les médias. Cela passera par une volonté politique de mettre à disposition des équipes féminines des enceintes adaptées à la retransmission télé et un accueil de qualité.
Pourtant, la réussite...
Merci, Madame la Ministre. La parole est à Madame
Elle
Florence.
Elle a épuisé ses deux minutes
Merci
de temps de parole.
Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues.
Et faire la passe, cette limite, je suis bien, je suis pas le seul à avoir relevé la formulation particulière.
Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le Ministre, il y a bientôt 30 ans...
Elle a dit, au moins les jeunes femmes savent qu'on peut leur faire la passe, au moins sur le terrain.
Lors de son dernier rapport en 2016, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies recommandait notamment à la France une meilleure coordination des institutions œuvrant pour le respect des droits de l'enfant. Outre l'adoption de la CID, qui concerne près de 16 millions d'enfants dans notre pays, la France a signé en 2015, les 17 objectifs du développement durable. La cible 16.2, qui s'inscrit dans l'objectif paix, justice et institutions efficaces, vise à mettre un terme à la maltraitance, à l'exploitation, à la traite et à toutes les formes de violence et de torture dont sont victimes les enfants. Pourtant, aujourd'hui encore, un enfant sur 10 est victime de violence en France. Pendant l'heure que nous venons de passer dans cet hémicycle, un enfant aura été violé. Et dans les 72 prochaines heures, un enfant perdra la vie dans le cercle intrafamilial. Inutile de dire que ce constat nous oblige à agir tous. C'est pourquoi je me réjouis que le gouvernement et le Parlement prennent au même moment les mesures de ces enjeux, alors que la mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance vient de rendre ses conclusions et que le Sénat a voté l'interdiction des violences éducatives ordinaires. Vous travaillez depuis plusieurs mois en concertation avec les acteurs du secteur à un pacte pour l'enfance reposant sur 3 piliers. Lors des Assises nationales de la protection de l'enfance qui ont eu lieu à Marseille en fin de semaine dernière, vous êtes engagé à replacer l'enfant, ses besoins fondamentaux, ses droits et sa parole au cœur de nos politiques publiques. Aussi, pourriez-vous, Monsieur le Ministre, partager les principales mesures du pacte pour l'enfance
même Claire Petit écoute une drôle de journée
calendrier de sa mise en œuvre. Je vous remercie.
Merci.
Florence Provendier qui pose une question sur la maltraitance
auprès de la maltraitance des solidarité et
des
de
enfants.
Monsieur le Président,
Florence Provendier, qui est membre du groupe d'études des droits de l'enfant et protection de la jeunesse, et qui a bossé dans des associations de protection des droits de l'enfant, notamment Un enfant par la main.
Le gouvernement se saisit de cette question de l'enfance. Et à l'écoute des chiffres que vous avez prononcés,
par Adrien Taquet, le tout dernier nommé au gouvernement en charge de ce sujet-là précisément.
Pour ouvrir les assises de la protection de l'enfance, qu'attendent de nous en réalité les enfants de l'aide sociale à l'enfance? Que leur doit la République? Mais écoutez, ni plus ni moins, je pense, que d'être des enfants comme les autres. Être des enfants comme les autres, c'est avoir les mêmes droits que les autres. C'est le droit d'être en bonne santé. Être un enfant comme un autre, c'est avoir le droit d'être scolarisé, de se sentir en sécurité. Être un enfant comme un autre, c'est avoir sa parole qui est entendue. C'est aussi avoir le même quotidien
de Gabriel Attal,
c'est pouvoir aller à un anniversaire un samedi soir, ce qui aujourd'hui est
en même temps, c'est pas son sujet, Gabriel Attal.
Pas impossible.
Gabriel Attal, il s'occupe de ceux...
comme un autre.
C'est Gabriel Attal, il maltraite les ados, c'est pas la même chose. Là, on est dans la protection contre la maltraitance des enfants.
Dans un monde idéal, l'aide sociale à l'enfance, en réalité, n'existerait pas. Mon secrétariat d'État, probablement, n'existerait pas, lui, non plus. C'est pour ça que nous devons... lutter frontalement contre les violences faites aux enfants, c'est tout le sens du plan de mobilisation pour une société sans violence faite aux enfants que l'ensemble de ce gouvernement ici devant vous travaille et dévoilera à la rentrée prochaine. Et puis enfin, Madame la députée, vous le savez, la meilleure façon, la première façon tout du moins, de protéger un enfant, c'est souvent de commencer par accompagner les parents dans leur projet d'être parents. C'est tout le sens du travail que nous effectuons sur les 1000 premiers jours de la vie d'un enfant qui vont du 4e mois de la grossesse jusqu'aux 2 ans de l'enfant. C'est là où tout se joue, le président de la République l'a dit. C'est là où la santé de l'enfant se joue, où son développement se joue. C'est là aussi où souvent se forgent, se creusent les inégalités sociales. C'est pour ça que nous devons surinvestir sur ces 1000 premiers jours de l'enfant. Pour conclure, Madame la députée, en tant qu'individu, mais probablement aussi en tant que nation, rappelons-nous que l'enfance est ce sol sur lequel nous marchons toute la vie.
L'enfance est ce...
Merci, Monsieur le Ministre. Avant d'appeler la dernière question,
je suis pas sûr d'avoir compris.
Je fais annoncer le scrutin sur la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur Internet dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Nous voterons immédiatement après la réponse à la question. La parole est à Monsieur Luc Carvounas.
Merci, Monsieur le Président.
On peut voter. Si vous voulez, on fait un stop à la pâte aux zombies.
Madame la Ministre, par un courrier daté du 12 juin dernier, je vous ai interpellé au sujet du site Alfortville de la société Chronopost. Il fait l'objet d'un mouvement de grève initié par plusieurs dizaines de travailleurs sans papier.
L'enfant, c'est le seul sur lequel nous marchons.
Pour
courrier
ma demande de rendez-vous,
on marche sur les enfants.
Je vous pose donc aujourd'hui directement ma question. De quoi s'agit-il ? D'une situation professionnelle et humaine inacceptable. En effet, le groupe La Poste, qui est une entreprise publique, rappelons-le, recourt, en feignant de ne pas le savoir, à des travailleurs sans papier. Il décharge ainsi les camions transportant les envois Chronopost et les tri afin de permettre leur distribution. Ils sont privés des droits élémentaires dus aux salariés. Ils embauchent à 3 ou 4 heures du matin. Ils sont employés à temps partiel pour à peine 600 euros par mois. Et bien sûr, il n'est pas question pour eux de tomber malade ou de porter des revendications sociales.
Oui, j'ai bien
sociales.
Compris, Isabelle.
Ce traitement, il est
rigolo,
inhumain
quoi.
Et il est inacceptable. Néanmoins, il n'est pas le fait de votre gouvernement, reconnaissons-le tous ensemble. Il est le résultat d'un laisser-faire dans notre pays depuis 30 ans. Oui, on ferme les yeux sur ce qui n'est autre que de l'esclavage moderne. On ne peut pas accepter d'employer des sans-papiers dans le seul but de faire baisser des coûts de fonctionnement. Madame la ministre, nous ne pouvons pas nous contenter des réponses alambiquées des différents employeurs, directs ou indirects, qui se contentent de se décharger de la question sur un tiers. Humainement, je suis solidaire de l'émoi de ces travailleurs, de Demba, de Mohamed, de Sekou, de Samba et de tous les autres. Ils sont confrontés au système inique de sous-traitance en cascade. Madame la ministre, ma question, elle est claire. Êtes-vous prête, avec le gouvernement, à diligenter une enquête auprès du groupe La Poste ? Et êtes-vous prête à délivrer une autorisation temporaire de travail à ces travailleurs le temps que leur dossier de régularisation soit étudié ? Je vous remercie.
Luc Carvounas qui pose une question sur le fait qu'apparemment la Poste emploierait
au ministre du Travail.
Aurait des pratiques sociales.
Monsieur le Président, monsieur le député.
Pas tip-top.
Mesdames et messieurs les députés.
Visiblement.
Je crois que nous avons un problème, je le partage avec vous. C'est le contrôle de la qualité de l'emploi dans la sous-traitance dans notre pays. La sous-traitance en elle-même n'est pas mauvaise, du moment que les mêmes droits sociaux s'exercent, que les mêmes droits, je dirais, généraux s'exercent. C'est parfois le cas, ce n'est pas toujours le cas, et aucun donneur d'ordre, aucun maître d'ouvrage n'est dispensé de ce devoir de vigilance, prévu d'ailleurs par le Code du travail. Alors comment faire pour progresser ? Hier, au nom du Premier ministre, j'ai présidé la Commission nationale de lutte contre le travail illégal, qui intègre le sujet du travail dissimulé, des conditions d'emploi non respectées, mais aussi qui va jusqu'à le sujet de la traite des êtres humains, car il peut exister en France des situations inacceptables qu'on révèle souvent à travers un logement insalubre, à travers des conditions de vie indignes. Hier, nous avons fait, je pense, une grande avancée de façon interministérielle sur ces sujets, en adoptant le plan 2019-2021 de lutte contre le travail illégal, et avec un travail qui va être extrêmement renforcé sur le plan interministériel. Les services fiscaux, la concurrence, les douanes, l'inspection du travail, la justice, la police, le ministère de l'Intérieur, les transports, la MSA, tout le monde est là, et nous allons donc, sur l'ensemble des sujets qui concernent le travail illégal, qu'il soit ou non, ou des conditions d'emploi inégales, il n'y a aucun employeur qui ne peut être à l'abri. Il y a un droit, il y a un droit social dans notre pays, et il y a un droit plus général. Donc nous allons, sur tous les sujets où nous sommes saisis, maintenant travailler de façon beaucoup plus interministérielle. L'élément nouveau, c'est grâce à la loi antifraude et la loi avenir professionnel, nous allons partager toutes les données, et donc nous agirons partout où il le faut, à la Poste comme ailleurs, s'il le faut.
Merci, madame la ministre.
De son fille qui dit « j'ai rien compris ».
La séance des questions au gouvernement est terminée.
Pour te résumer...
Nous allons procéder au vote par scrutin public sur la proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux.
Pour résumer, Marielle Pénicaud va faire ce qu'il faut.
Je vous prie de bien vouloir regagner vos places.
On le laisse.
Allez, soyons fous. Il y en a un peu plus, on roule avec.
Vous pouvez voter vous aussi.
Le scrutin est ouvert.
Votez, c'est maintenant.
Le scrutin est clos.
Vous avez voté ? Qui a gagné ? Alors, attention, vous êtes prêts ? Vous avez voté ou pas ? Ça remonte.
Voici le résultat du scrutin. Votant 536 exprimés. 467 majorité, 234 pour, 434 contre 33.
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi. La séance est suspendue.
Vous n'avez pas assez voté si vous votiez contre. Regardez.
C'est une petite majorité. Hein, ça va.
Ah là, on est sur une petite majorité. Ouais, c'est vraiment. C'était serré. Franchement, c'est passé à ça, quoi. C'est vraiment. C'était. C'est chaud. Chaud. Bon, j'espère que cette séance de questions d'actualité au gouvernement vous a plu. J'espère que vous avez tout compris. Et si vous n'avez pas tout compris, ça votait pour quoi, Fanny Dufos? Ça votait pour la proposition de loi en première lecture de Laetitia Avia de lutte contre la haine sur Internet. Première lecture, si vous ne savez pas ce que c'est, pour rappel, un texte de loi qui est proposé, donc soit une proposition, soit un projet de loi, ça passe en première lecture devant une chambre, puis devant l'autre, puis après... Je vous fais le cas général. Puis après, en deuxième lecture, devant une chambre, puis après, devant l'autre. Et ensuite, s'il n'y a pas d'accord, ça se retrouve en commission mixte paritaire, où vous avez 7 députés, 7 sénateurs qui papotent ensemble pour trouver un texte qui peut convenir aux deux chambres. S'ils trouvent les deux chambres valides, et si jamais, soit ils n'ont pas trouvé, soit les deux chambres n'ont pas validé, alors ça passe en nouvelle lecture dans une chambre, puis dans l'autre. Et s'il n'y a toujours pas d'accord, on termine en dernière lecture, en lecture définitive à l'Assemblée nationale uniquement cette fois-ci, qui a le dernier mot. Et donc la première lecture, sauf à ce que ce soit exactement... Alors attendez, on va aller voir le Laetitia Avia, dossier législatif, proposition de loi, je vous mets le dossier législatif dans El Chat. Et donc là, c'est la proposition de loi a été déposée en mars 2019. C'est en première lecture à l'Assemblée nationale. Il restera au Sénat de voter exactement dans les mêmes termes ou dans des termes différents. Dans les mêmes termes, ça deviendra une loi directe. Dans des termes différents, ça suivra tout le processus que je viens de vous décrire. J'espère que c'était à peu près clair. What, il y a un système qui permet que l'Assemblée ait le dernier mot. Oui, Moucho Capic, puisqu'il faut qu'à un moment, il y ait un moyen de pouvoir trancher et faire passer des trucs, parce que sinon il suffirait d'avoir le Sénat pour empêcher toute loi de passer. Si jamais il n'y a pas d'accord entre les chambres, malgré une première lecture, éventuellement une deuxième lecture, une commission mixte paritaire et une nouvelle lecture, alors c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Pourquoi l'Assemblée nationale? Parce que l'Assemblée nationale est élue au scrutin direct, là où le Sénat est élu suite à un scrutin indirect. Ce sont de grands électeurs qui élisent nos sénateurs. Et donc l'Assemblée nationale est nettement plus légitime pour trancher. Le pire, c'est qu'aucun d'eux n'a une quelconque compétence en réseau ou programmation, n'y connaît rien sur l'informatique, mais vote dessus sans avis d'expert. Je suis au regret, mon cher votre serviteur, de disconvenir, puisque ils auditionnent régulièrement des experts. Ah, quoique là, c'est une proposition de loi, donc je ne sais pas s'ils ont pu auditionner des experts. Mais pour les lois, il y a des auditions d'experts qui ont lieu en long, en large et en travers. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. C'est vrai qu'on peut se souvenir, par exemple, les plus old school d'entre vous se souviendront peut-être de Christine Albanel qui qualifiait Open Office de pare-feu, je crois. Je suis sûr que quelqu'un...
Le fameux pare-feu, hein, Open Office.
Voilà. Plus légitime n'est pas légitime. Oui, mais alors quand tu es élu par... toute la population française, comment tu veux faire plus légitime que ça? Oui, c'était ça, un pare-feu Open Office. Christine Albanel, qui était ministre de la Culture à l'époque, c'était lors des débats sur la loi Hadopi. Enfin, pour l'adoption de la Hadopi, la haute autorité d'Internet, tout ça. Ouais. Et ils appellent qui comme expert sur ce sujet contre la haine sur Internet, déjà qu'ils qualifient ce qu'ils n'entendent pas? Ah, je sais pas, je suis pas allé suivre, j'ai pas suivi tout ce texte-là précisément, mais je t'invite à aller lire le dossier législatif. Je suis sûr que si tu lis tout, bon courage, tu trouveras tout ce qu'il faut, toutes tes réponses sur ces sujets. Mais les experts, ça peut être, j'en sais rien. Alors dans ce cas précis-là, je sais pas, j'imagine des déontologues, des gens qui bossent dans l'éthique, des gens qui bossent chez les réseaux sociaux, qui sont en charge de modérer les contenus des réseaux sociaux, j'imagine, etc. etc. C'est vrai que chez Facebook, je crois que... alors, c'est des chiffres de Facebook, donc je sais pas ce qu'ils valent, mais il me semble avoir entendu que Facebook, ils avaient plus de 30 000 personnes chargées juste de la modération du contenu. C'est dire que c'est pas rien, évidemment, quand vous gérez... Ça veut pas dire que... Il faut les excuser de tout, mais ils ont clairement les moyens d'avoir plus de gens. Mais
oui, c'est pas des machines humaines, quoi. C'est pas des machines, quoi. Difficile, hein, de tout modérer. Forcément, il y a des choses qui passent à travers.
Exactement. Et puis en plus, il y a des documentaires qui ont été tournés sur le quotidien des gens qui modèrent. et où en fait ça te rend dingue très rapidement parce que tu modères des trucs affreux, que ce soit évidemment dans le fond des propos, mais en plus des mots, des images, des trucs où tu vois de la pédopornographie, des trucs ultra violents, etc., etc. Je vois Julien Pagnac qui est derrière qui regarde intéressé d'un coup. C'est des employés où ils ont recours à des bénévoles. C'est des employés sans que le tiers. Enfin, il me semble que c'est des employés. Voilà. J'espère qu'ils vont modérer le contenu produit par les SJW. Ah, d'accord. Donc, yes. C'est de la censure que tu appelles. Eh bien, écoute, pourquoi pas. Vous savez, faut réussir à convenir de désaccord entre les gens. Hein. C'est pas parce que quelqu'un est en désaccord avec vous qu'il faut le censurer. Hein.
Je suis en forme le chat aujourd'hui. Hein.
Ouais, en forme.
Vous étiez en forme, hein, ouais. Comme vous.
Ouais. Mais j'essaie d'expliquer l'inexplicable. Attention à ne pas excuser l'inexcusable. Je suis Manuel Valls, Gunther Love. Je suis Manuel Valls. J'en étais pas rendu compte de quoi, énigmatique.
Non, sur la forme du chat.
Ah, oui, le chat aujourd'hui était. J'ai vu que vous aviez parlé pendant des heures et des heures sur le bien fondé de l'égalité salariale dans le foot féminin.
Voilà.
Tu l'as pas mis dans la banque de sang ?
Non.
Hypocrite ! Est-ce que le 18-25 va survivre avec cette loi anti-haine ? Telle est la question. C'est une bonne question. Je ne sais pas. Je ne suis pas expert en 18-25. Peut-être qu'ils ont auditionné des gens du 18-25 d'ailleurs.
Je pense que les gens trouveront toujours des moyens un peu détournés.
Oui, c'est ça. Le truc, c'est que vouloir modérer Internet, ça part d'une bonne intention et c'est nécessaire. Vaut mieux ça que ne pas essayer. Mais c'est toujours compliqué puisqu'il y a toujours des moyens de suivre.
Il y a un phénomène assez intéressant qui est très compliqué, mais c'est par exemple quand il y a eu toutes les annulations, des fermetures de sites de streaming.
Ouais.
Bah, les gens, en fait, quand ils ont vu que les sites de streaming étaient fermés, tu vois, au lieu de se calmer, bah, en fait, non, il y a plein de gens qui ont voulu en créer plein d'autres derrière. Ouais.
D'effet stressant, ouais.
C'est ça, en fait. J'avais parlé du. Ouais, non, j'avais pas dit sur ce sujet-là, mais j'avais parlé du cannabis. Mais, la théorie en autorisant le cannabis, ça éviterait justement que ce soit éparpillé partout et qu'on puisse contrôler ça, tu vois.
Ouais.
Donc là, c'est un peu, je fais un parallèle avec ce principe-là dans la mesure où si on interdit quelque chose, il y a des chances aussi que les gens s'éparpillent de tous les côtés, qu'ils veuillent à chaque fois tout le temps détourner la loi, quoi.
Le truc, c'est que souvent, il faut faire un bon entre-deux entre est-ce que autoriser, enfin, quel est le coût de autoriser et réguler. Par exemple, tu parles du cannabis, et pour le cannabis, si fumer un joint de cannabis te tuait immédiatement, on estimerait probablement qu'on ne va pas réfléchir à la légalisation, à l'encadrement du cannabis. Mais il y a beaucoup de gens qui bossent dans la santé publique qui disent qu'il vaut peut-être mieux réussir à encadrer et modérer et légaliser mais encadrer que la prohibition pure et dure qui a surtout des effets négatifs. Et voilà, mais s'il était question du meurtre, je veux dire, on ne va pas légaliser le meurtre au motif que ça permettrait de mieux encadrer le meurtre, quoi. Pour ce qui est de la haine sur Internet, l'intention est bonne, comme tu dis, c'est compliqué parce qu'il y a toujours des, enfin, c'est facile d'aller dans des micronations ou des pays où la liberté d'expression a des exceptions différentes qu'en France pour faire héberger ces sites là-bas, par exemple. On s'en souvient, par exemple, de 4chan, etc., mais aussi de ce qui était drôle, c'est The Pirate Bay, où The Pirate Bay qui est un site de streaming. Enfin, de torrent, où quand ça avait été interdit, je crois, en Angleterre, un truc comme ça, les mecs étaient allés ouvrir leur serveur en Suède ou en Norvège ou je sais pas quoi, qui est un pays où il n'y a pas de réglementation sur ce sujet-là, et ils recevaient plein de lettres. Il y a une page très rigolote sur The Pirate Bay où ils compilent toutes les lettres de plaintes qu'ils ont reçues des ayants droit. Et oui, et ils répondent dans le même format exactement que les gens. Et donc, par exemple, il y a des gens qui leur ont envoyé des lettres en JPEG ou en PNG, et ils répondent moi aussi, je peux faire un format chiant à lire, écrit sur Paint. Enfin voilà, des trucs assez drôles comme ça, quoi.
Tu parlais on va pas légaliser les meurtres, mais il y a quelques films qui théorisent un peu ce genre de trucs, tu vois. Mais alors, évidemment, c'est toujours un peu. Je pense à la série de films American Nightmare.
Je connais pas.
Ou c'est ça, American Nightmare, je crois.
Je connais pas.
Ou c'est en anglais, c'est The Purge. Ou en gros l'idée, c'est
je sais pas.
Et en gros l'idée, c'est d'autoriser pendant 24 heures pendant une nuit, je crois, les meurtres à tout niveau, sauf, sauf certains termes, pour, dans l'idée justement qu'en laissant les gens extérioriser leur haine, pendant tout le reste de l'année, ils vont être plus sages, tu vois. Bon, après, c'est très américain.
Voilà, votez pour Raphaël.
Votez pour moi, bien sûr. Elle autorise les mœurs pendant une soirée.
Votez pour la régie. Elle vous prépare de subir. Elle vous prépare des soirées streaming The Purge.
Voilà, c'est ça.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, aujourd'hui, pas de Minecraft. Aujourd'hui, c'est The Purge. Et on va suivre, on va se balader dans la rue avec, avec ma caméra et on va filmer les meurtres.
Mais enfin voilà, il y a des films qui t'oïssent ce genre de trucs.
Ouais, j'avais vu un truc rigolo sur Twitter de quelqu'un qui disait j'ai plein de questions sur The Purge, alors ça se passe aux États-Unis mais il y a 6 fuseaux horaires, donc comment ça se passe, est-ce que ça se déplace en même temps que les fuseaux horaires ou est-ce que quelqu'un qui posait plein de trucs rigolos comme ça quoi. L'intérêt de CQAG est bien présent, mais la majorité. Pardon, vas-y.
Non, j'allais dire juste, j'ai pas dit que je cautionnais ça. Hein. J'ai juste dit qu'il y
avait. Tu fais ce que tu veux.
Assume
tes propos. Assumez vos propos, monsieur.
Oui, on va légaliser le meurtre. Allez, c'est parti là.
Monsieur Raphaël. Donc attendez, je lis un peu vos commentaires maintenant qu'on a fini de dire des conneries.
Je vais me menacer de mort. Mais
le programme de la régie est simple, égaliser l'herbe et le meurtre.
Voilà.
En même temps,
les gens, ils éviteront de. Voilà.
Si t'as fumé avant de te faire tuer, ça fait moins mal, j'imagine. T'es plus anesthésié. Tu me tiendras au courant de la prochaine nuit meurtrière, je m'occupe volontiers de Raphaël.
Yes.
C'est cool, bonne ambiance.
N'hésitez pas à me menacer de mort encore, hein, j'apprécie.
Bon, l'intérêt de CQAG est bien présent, mais la majorité gâche tout avec leur non-question. Mention spéciale à Avia Cédric O, j'imagine. C'est les questions chou pas. Hein. C'est un grand classique des CQAG. Ce n'est pas seulement cette majorité pour leur défense. Les précédentes étaient également victimes de ce phénomène. Ce qui est bien la preuve que ce n'est pas une question de personne, c'est juste une question de cadre dans lequel vous évoluez. Quoi. Mais je suis un peu d'accord avec toi. Nous, les questions chou pas, ça nous gonfle beaucoup chez Acropolis. Mais effectivement, comme vous le disiez Raphaël il y a une seconde, la voix que vous entendez, si vous ne connaissez pas Acropolis, hein, c'est Raphaël, c'est la Dieu. Régie, c'est Dieu. Dieu nous parle. Mets-toi un écho gigantesque. Non, comme vous le disiez Raphaël, à la rentrée, ce ne sera plus la même chose, puisqu'à la rentrée, il n'y aura plus que 8 questions pour la majorité. Enfin, a priori, on est parti pour. On va voir s'ils se mettent d'accord là-dessus ou pas. C'était le projet. Voilà, c'est Raphaël de la régie. Le projet était qu'il n'y ait plus que 8 questions pour la majorité et 22 pour l'opposition. Et 8 questions, ça ne laisse plus trop la place à des questions choupa dans tous les sens. Ce qui est pas plus mal, on va pas se le cacher. Et le chat qui défile alors que je veux pas, c'est.
Arrêtez de parler, s'il vous plaît.
Le 18-25 va détruire le système. Yes. Bon courage, le 18-25. Est-ce que déjà que les gilets jaunes n'ont pas réussi, est-ce que le chat d'Acropolis va survivre? Je ne sais pas. Adieu 4chan. Bah 4chan, ils sont à l'abri, par exemple. Vous voyez. Dieu est apparu. D'ailleurs, il n'y a plus la cam de Raph dans le coin. Bah, comme régulièrement, il est nu. Il n'y a plus la cam.
Là, pour aujourd'hui, je suis habillé, mais d'habitude, je suis nu. Donc
voilà. Du coup, on a enlevé la cam. Non, il a enlevé la cam. Je sais pas pourquoi tu as enlevé la cam.
Alors, c'est très simple. C'est qu'il y a un moment où je me suis rendu compte que bah, pour les émissions comme ça, où j'interagissais un peu moins, ou.
Ça n'avait pas de.
Et puis, je suis souvent dans des positions un peu avachées et tout. Donc, voilà. Mais. Non, je sais pas. Je trouve ça bizarre, en fait, d'avoir un mec en haut à droite qui parlait à peine pendant toute l'émission. Tu vois, donc, je trouve ça très bizarre, tu vois. Alors qu'avec Adrien, je la laisse parce qu'on parle beaucoup.
Ouais.
Donc,
ouais.
Mais. Et bon, comme il me laisse très peu de place, finalement, François, je suis obligé de me. Enlever quoi, voilà.
Tu peux te muter s'il te plaît.
Yes, écoute, à plus. Hein.
Merci. Bon, les amis, si Raph en cosplay de Jean début d'Acropolis, t'as fait un cosplay de Jean?
Non, mais avec la chemise blanche là.
Ah oui, oui, très juste, effectivement. C'est un signe que t'as pris du poids. Personne n'est gros énigmatique.
Mais non, en plus, non, François, non, il est pas du tout.
Et du coup, au moment de la légalisation du meurtre, est-ce que la légalisation du cannibalisme va suivre? Bonne question.
Il y a des films d'ailleurs, hein, qui en parlent. Non, je connais pas de film qui parle de l'égalisation de cannibalisme, mais.
Ça n'a rien à voir, mais on m'a parlé d'un film, enfin ça me fait penser à ça, on m'a parlé d'un film qui paraît-il vachement bien avec Daniel Radcliffe. Ah. Où c'est un mec qui se retrouve coincé sur une île déserte.
Ah oui, Fail Army Man. Je crois que c'est ça.
Peut-être, je sais pas.
Je crois que c'est Fail Army Man. Un mec qui pète là et qui.
T'en fais une super pub. Je sais pas, le pitch du film, c'est genre.
C'est un mec qui est mort et qui est. Oui, c'est Swiss Army Man, voilà, c'est ça.
Swiss Army Man, c'est ça, oui.
Ah, c'est ça, c'est pas Fellini.
Il devient pote avec le cadavre de Daniel Radcliffe, et il a des allus, je sais pas quoi, je l'ai pas vu, mais il paraît qu'il est vachement bien.
C'est ça. Oui, il est cool, mais.
Ça fait penser à ça. On veut le jeu des citations chelous. Alors, Alilo, je suis désolé, j'ai pas cherché beaucoup plus de citations, du coup, j'en ai pas beaucoup plus à vous faire. Mais par contre, si vous voulez, je peux vous faire des blagues d'économistes pourris, je les avais mises de côté pour le commentaire des rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Et j'ai oublié de vous les faire pendant les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Donc, vous préférez des citations un peu nazes que j'essaie de trouver, mais devant vous, donc j'en ai pas des super forcément qui vont tomber, ou des blagues d'économistes, dites-moi ce que vous voulez. Meilleur stream de la planète, mais écoutez.
Merci.
Voilà, il faut savoir qu'Acropolis change complètement de ligne éditoriale. Maintenant, on fait plus que des blagues.
On parle de paix, de cinéma. Voilà, c'est parti.
T'as des blagues de statisticiens ? Vas-y, Flur s'envoie, j'en ai aussi des blagues de statisticiens.
Allez, fais les blagues d'économistes. Allez,
des trucs sur le merde. L'ajustement saisonnier, ce genre de truc. Des blagues d'économistes, allez.
Regardez bien le nombre de viewers, hein, ça va vite chuter.
Oui, ça va vite chuter. Alors, les blagues d'économistes viennent tous d'un endroit, d'un blog que je vais vous conseiller, mais je vous donnerai le nom du blog à la fin, comme ça vous n'allez pas lire les blagues et je peux vous les faire. Je vous préviens, elles sont sévèrement nulles. Hein.
Pas de soucis. Elles sont compréhensibles.
C'est le concept. Je ne suis pas sûr qu'elles soient compréhensibles. Combien faut-il d'économistes de Chicago ? Le Chicago, c'est l'école libérale, donc en gros les gens qui considèrent qu'il ne faut rien toucher et tout ira bien. Donc combien faut-il d'économistes de Chicago pour changer une ampoule ?
Tu sais ? Un seul ?
Non, aucune. Si elle doit être changée, le marché s'en chargera. Voilà, parce que D'accord. C'est la théorie de l'école de Chicago. Combien d'économistes marxistes faut-il pour changer une ampoule ?
Je ne sais pas, un ?
Non, aucun. Elle porte en elle les germes de sa propre révolution. Pourquoi ? Parce que Marx disait dans son bouquin que la dynamique de la lutte des classes sociales fait qu'on va forcément aboutir à la révolution. Et que donc le capitalisme porte en lui les germes de sa propre révolution. D'ailleurs, fun fact, Marx considérait que le socialisme n'était pas atteignable, n'était atteignable qu'après être passé par le stade du capitalisme, et pas avant. Et donc on pourrait dire d'une certaine manière que l'URSS n'était pas un pays communiste au sens où Marx l'entendait, puisque l'URSS n'est pas passé par une phase capitaliste, mais passé directement d'une phase féodale à une phase...
Tant de savoir.
Une forme de proto-communisme, si on veut. Combien d'économistes néoclassiques faut-il pour changer une ampoule ?
Je sais pas.
Ça dépend. On attend toujours la chute du capitalisme. Ça dépend du taux de salaire d'équilibre. Parce que les néoclassiques estiment que le marché du travail, que le taux de chômage s'équilibre en fonction du taux de salaire d'équilibre. Vous avez compris l'idée de ce que je voulais dire.
Ouais.
Combien d'économistes keynésiens faut-il pour changer une ampoule ?
Je sais pas.
Tu dis quand ça te saoule là.
Je sais pas ce que c'est. Donc...
8, 1 pour changer l'ampoule et les 7 autres pour maintenir toutes les chaudes. Merde, 1, 2, 3, je recommence. 8, 1 pour changer l'ampoule et les 7 autres pour maintenir toutes les autres choses égales par ailleurs dans la pièce.
D'accord.
Pourquoi ? Parce qu'en économie, quand on analyse un changement, on analyse les changements un par un et pas si je change à la fois le taux de chômage et le taux d'intérêt, je peux pas dire quel est. Si je change le SMIC les taux d'intérêt directeurs des banques centrales, alors je ne peux pas savoir lequel des deux a abouti à faire baisser le chômage au final. Alors que si j'en change qu'un des deux, c'est plus évident d'établir la corrélation. C'est un raisonnement qu'on appelle ceteris paribus en latin, en bon latin, en économie, ce qui veut dire toutes choses égales par ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a ?
C'est
que tu le chat. T'as pas capté ?
Non, mais si, là j'ai capté, mais je veux dire, à chaque fois que tu fais la blague, juste.
Oui, non, la blague sur le moment. L'économie, c'est la seule discipline où deux personnes peuvent partager le même prix Nobel en racontant des choses complètement opposées. Ça, c'est une citation. Et en l'occurrence, il y a un exemple qui est Gunnar Myrdal et Friedrich Hayek, l'un étant.
Les fameux, oui, comme dirait Sylvain.
Enfin, Hayek, monétariste, et Myrdal, je sais plus trop, Myrdal, ça fait longtemps, en 74. Un professeur d'économie indien racontait à ses élèves sa façon de voir la réincarnation. Si vous êtes de bons économistes, vous serez réincarné en physicien. Si vous êtes de mauvais économistes, vous serez réincarné en sociologue. Ce qui n'est pas sympa pour les sociologues. Parce que la physique est une science plus sérieuse que l'économie, et l'économie est, d'après les économistes, une science plus sérieuse que la sociologie. Ce dont je ne suis pas franchement d'accord, ayant fait moi aussi de la sociologie. Comment appellerait-on l'économie si elle n'utilisait pas d'hypothèses pour construire ses théories ? La comptabilité. Je ne sais pas si ces blagues sont... Même pour un économiste, je ne sais pas si elles sont très drôles.
Je sais, je...
Vous connaissez l'histoire de l'économie. Alors l'économétrie en économie, c'est l'outil qui permet d'évaluer si un modèle a, si la réalité rentre dans ce que prévoit le modèle ou pas. Voilà. Et donc l'économétrie, c'est des statistiques en gros. Vous connaissez l'histoire de l'économètre qui s'est cassé une jambe en sautant dans sa piscine vide au début de l'été dernier ? Il avait oublié l'ajustement saisonnier. L'ajustement saisonnier qui est le fait que si vous regardez ce qui se passe tous les mardis, et ben il se passe pas forcément la même chose entre un mardi d'été et un mardi d'hiver. Le chat qui est vraiment au PLS. L'économétrie, ce sont des statistiques sans rigueur. C'est pas faux. Une citation de Robert Solow. Alors Robert Solow, c'est un économiste qui a...
Le frère de Hatt, hein, bien sûr.
De Hatt.
Le frère de Anne.
Non, de Anne, ouais. Robert Solow, c'est un économiste qui a...
Et de Bruno.
Et de
Bruno, bien sûr.
De Bruno Solow. Ouais, ta sûr. Gueule. Robert Solow, c'est donc un économiste qui s'est fait connaître, je crois qu'il a eu d'ailleurs le prix Nobel pour ce modèle, un modèle de croissance où en gros, il cherche à savoir quels sont les... déterminant, enfin, quel est le taux d'épargne optimal, c'est-à-dire en gros, si vous recevez 100 euros et que vous en mettez 20 de côté, votre taux d'épargne c'est de 20%, quel est le taux d'épargne optimal pour la population pour maximiser le taux de croissance. Voilà, il a fait un modèle qui s'intéresse à ces questions-là. Bref, en gros, il parle de croissance, mais c'est un macroéconomiste, quoi. Milton Friedman, qui va être cité dans la citation que je vais vous citer. Milton Friedman, c'est un économiste monétariste qui a dit beaucoup de conneries. Une autre différence entre Milton Friedman et moi, c'est que à peu près tout... je suis en train de traduire au vol, donc c'est pas évident. Une autre différence entre Milton Friedman et moi, c'est que à peu près tout rappelle à Milton l'offre de monnaie. Eh bien, figurez-vous que moi, à peu près tout me rappelle au sexe, mais j'essaye de le garder en dehors de mes papiers. C'était compréhensible ou pas ce que j'ai dit ?
Oui, c'est pas très clair.
En gros, c'est une manière de dire que Milton Friedman était obsédé par les questions d'offres monétaires. Un économiste, un philosophe, un biologiste et un architecte débattent de la profession de Dieu. Le philosophe commence. Par-dessus tout, Dieu est un philosophe parce qu'il a créé des principes selon lesquels l'homme doit vivre. Ridicule, répond le biologiste. Avant cela, Dieu a créé la vie, ce qui prouve bien qu'il était biologiste. Non. Avant cela, Dieu a créé les cieux et la terre. Il était donc architecte, dit alors l'architecte. Avant cela, tout n'était que confusion et chaos. Ok, coupe alors l'économiste. Et d'où croyez-vous que le chaos et la confusion venaient ?
C'est nul
à chier.
On s'arrête là, par
contre. Non, j'en ai plein d'autres encore. Ou alors on les garde pour une prochaine séance, comme vous voulez.
Au secours.
J'ai demandé à un économètre son numéro de téléphone, elle m'en a donné une estimation. Je sais pas si c'est compréhensible. Parce qu'en économie, on estime des variables.
C'est que le plus marrant, c'est toi qui expliques les blagues plutôt que les blagues elles-mêmes. Hein.
Oui, mais ça, sinon elles sont incompréhensibles. Si, enfin, pourquoi Dieu a-t-il créé l'économie ? Pour que les prévisions de la météorologie soient prises au sérieux.
C'est dur.
Attends, celle-là, j'aime bien et on peut peut-être conclure là-dessus. On fera l'autre moitié une autre fois si vous voulez. Stop ou je continue ? Dites-moi si vous voulez que je continue ou pas.
Faisons une dernière.
Non, est-ce que vous voulez que je continue et que je fasse toute la page, sachant que là, j'en ai fait genre la moitié, donc il en reste quand même plein. Ou je m'arrête là et je garde pour la dernière fois. Pour la prochaine fois, pardon. le chat est partagé. Hein.
Gardons sous le coude, ouais, comme dirait Claudie. Ce serait dommage qu'on s'en prive la prochaine fois, tu vois.
Quoi ?
Ce serait dommage qu'on s'en prive la prochaine fois.
C'est vrai. Quand les médecins font des erreurs, au moins ils ont la décence de tuer leurs patients. Quand un économiste fait des erreurs, il les ruine. Voilà.
C'est un
mauvais
message finalement.
Non, bah, je vous donnerai le site la prochaine fois et on se fait la deuxième moitié des blagues la prochaine fois. Je vous donne le site mardi prochain. Oui, ça vous va ? Allez, bon, j'espère que faut faire un live spécial. Écoute, on peut faire ça, live où je te raconte des blagues d'économie toute la journée. Bon, les amis, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir bien rempli la barre de dons, je vois.
Yes.
Nickel. Merci pour vos subs, pour vos follow, pour vos partages, tout ça. Je vous dis à mardi prochain pour séance de...
Un petit point sur cette semaine.
Dis-moi, vas-y.
Donc demain, il n'y a pas QS. Hein, c'est terminé pour cette saison, en tout cas. Ça reviendra normalement à la rentrée.
Tout à fait. Mais jeudi, Adrien.
Jeudi, il y aura Adrien à 14h30. Et est-ce que je peux parler de ce qu'il y aura aussi jeudi ? tout ce que je dis aussi, je peux en parler? Non, jeudi, il y a pas. En fait, jeudi, il y a Sylvain qui fête son anniversaire en live, mais il est, enfin, il est un peu timide. Donc bon, vous verrez bien s'il y a un truc ou pas jeudi, mais voilà, on en parlera. Voilà. Et sinon, à part ça, on rappelle qu'il y a l'Apéropolis vendredi soir.
Ouais, mais il y a plus de place quand ça.
Non, il y a plus de place pour l'Assemblée nationale, mais encore des places pour aller boire des coups quand même. Il y a jamais.
C'est vrai. Pardon.
Donc ce sera à partir de 18h, je crois. Le lieu est sur la page Facebook. Ce sera sur les quais de Seine, en gros, mais c'est sur la page Facebook de l'événement. Si quelqu'un peut la remettre, j'ai pas du tout sous la main. Et à part ça, non, il y a rien d'autre cette semaine, je crois. Bah non, il y a que ça. C'est déjà pas mal en tout cas. Voilà, donc ce sera prochaine émission. Jeudi à 14h30. Voilà.
Tout à fait. Alors attends, j'éternue et après on conclut ce soir.
Éternue donc. Moment de silence.
Ça veut pas venir. Je regarde la lumière, mais ça va pas venir. Ça va pas venir. Je suis désolé. J'éternuerai après ce stream. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission et je vous dis à mardi. On vous dit à mardi 14h30. Des gros bisous. Ciao.